Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est le printemps aujourd'hui, lundi 20 mars. Eh bien, on va avoir une émission de printemps, on va avoir tout plein de choses à vous raconter. On va saluer une partie de l'équipe qui est déjà avec moi. On va d'abord dire bonjour. Tiens, il n'était pas depuis 2 semaines, c'est notre ami Abou. Bonsoir Abou, ça va bien ?
Bonsoir, ça va. J'ai
pris une forme ?
Ouais, j'ai pris de bonnes vacances là.
Ouais, bon, ouais. C'est bien. Je vais saluer Valentin aussi qui est avec nous. Bonsoir.
Salut,
Valentin.
Philippe, ça va ?
Oui, lui interviendra aussi pour une grande page basket, rugby, sport mécanique, et puis volet aussi, hein, et puis pourquoi pas foot aussi. Hein,
je voilà. Suis un peu moins reposé que Abou, j'ai pas pris de vacances.
Oui, oui, puis on a beaucoup travaillé, on y reviendra samedi sur ce qui s'est passé samedi soir à Pantin. On va saluer aussi notre autre intervenant.
Ça va, super, on est prêt à parler de ça.
Ouais, très bien. Et puis notre invité d'aujourd'hui, donc, c'est Karim Lera, le directeur général du Paris Viking FC, c'est comme ça qu'on dit. Bonsoir Karim.
Bonsoir, ouais. Viking Club Paris.
Voilà, Viking Club Paris. Le siège est 3e ou 4e arrondissement ?
Alors,
j'ai vu sur internet, il y a les deux.
Ouais, mais maintenant, en fait, le centre de Paris, donc les arrondissements 1, 2, 3, 4, ils sont réunis ensemble.
Voilà.
Donc on est Paris Centre.
D'accord, ok. Alors, la particularité de votre club, hein, on présentera donc au cours de cette émission, c'est d'être un club, j'allais dire, pratiquement multisport, multi-activité.
C'est ça. Bon, après, ouais. Plus particulièrement, on est sur le football, sur 3 activités, mmh. Donc le football, mmh. Le futsal et le basketball. Mmh. Après, voilà, on fait plein d'autres choses, mais on aura le temps d'en discuter.
Donc c'est très bien. Hein. Donc vous pourrez nous accompagner sur tous les commentaires qu'on va faire, notamment sur le foot avec Antoine, avec donc Abou, avec Eladji qui devrait arriver, et puis aussi Valentin. Mais avant, messieurs, j'aimerais qu'on commence sur ce qu'on a vécu donc samedi soir, la boxe. Hein. On aura quelques interviews la semaine prochaine. Ça y est, c'est fait. Bakary Samaké, donc qui avait été notre invité la semaine dernière, il s'est imposé au point face à Lucas Batista, l'Argentin. Il est pour la première fois donc devenu champion du monde des poids super welter.
Bah après, ouais, c'est ça. Après son match, il le disait, c'est il a réalisé son rêve. Enfin, comme on disait avec toute l'équipe, c'est son rêve pour le moment à l'âge de 19 ans. Il a encore le temps d'accomplir plein de choses et de grandes choses. Et c'était un événement super bien organisé. Ouais. On a été très bien accueillis. Puis ça a été un match dirigé par Bakary de la tête aux épaules, oui. Du début à la fin.
Il a dominé. Hein, oui. Bon, pour les pointages, il y avait 97-92, 99-90, 98-90. Et nous, à peu près, on a pointé aussi chaque round. Oui. C'était à peu près ce qu'on avait
fait. Ça, c'est notre côté chauvin. Si on va pas se mentir.
Non, mais en toute logique, il a pris le dessus quand même physiquement au fil des rounds quand même. Hein. Il a mieux porté ses coups quand même.
L'Argentin a quand même très bien encaissé et il y a quand même le round
il a
de 4.
Quand même.
Il a su encaisser. Il y a quand même le round de 4 et 6 où quand même il lui met quand même Bakary est en grosse difficulté. On a même peur à un moment donné sur un mauvais coup que ça finisse mal pour lui. Et quand même il a su performer. Et après il a repris le dessus du match et c'était naturel. Voilà, ça se voyait que c'était normal.
Il a fini beaucoup plus frais. Et donc à l'arrivée 7-8 points parce qu'on les a comptés aussi nous comme les juges. On était à peu près d'accord avec lui. Vous aimez la boxe là ?
Ah oui, oui. Ouais, J'ai fait un peu de boxe française. Ah,
d'accord. Mmh. Alors, 11 victoires donc, pour Bakary. Il est invaincu. Hein, donc, c'est quand même.
Une énorme performance.
Ouais, énorme performance. Et puis, bon, on l'écoutera la semaine prochaine, hein, puisque j'ai fait une petite interview quelques minutes après
sa victoire.
Mais c'était vraiment, j'allais dire, le rêve de sa vie. Hein,
après, comme je le dis, il a 19 ans, donc il a encore plein de choses à accomplir. Et vu le talent qu'il a et la rigueur, moi, je l'ai suivi dans les vestiaires pendant toute sa préparation, ça se voit que c'est millimétré, il parle pas, il est dans son match avant que ça commence et il a complètement raison parce qu'à l'arrivée son combat a été mené de A à Z sans aucune vraie grosse erreur. Donc,
et notre ami argentin, maintenant, donc, il a 19 victoires, 1 nul et 3 défaites. Abou, toi qui as suivi aussi ce match, c'était ta première expérience avec la boxe ?
C'était sympa.
Ouais. Ah oui.
C'est plus sympa la boxe en bord de ring qu'à la télé. C'est moins ennuyant.
C'est le privilège d'être journaliste. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est moins ennuyant en bord de ring que sur le... qu'à la télé. C'était un très très beau combat.
Oui, très beau combat en plus. Hein. C'est vrai que l'Argentin était une belle opposition. Mais enfin,
avec deux très bons boxeurs, l'Argentin qui encaisse très très bien les coups quand même. Il a tenu 10 rounds alors qu'il en prenait des sacrés coups. Mmh. Et même, j'ai envie de dire, les combats d'avant, en fait, les deux premiers combats, même avant celui
Le deuxième était sympa, le premier, je l'ai trouvé un tout petit peu moins.
Il y en avait un qui était peut-être un peu plus que l'autre, mais franchement, c'était une très très belle soirée, une très belle organisation de la part des Samaquiers.
Voilà, alors on a voulu le laisser tranquille, hein, il ne va pas revenir avec sa ceinture aujourd'hui, mais on a une photo quand même sur nos réseaux sociaux, on est avec une ceinture, et il reviendra, il nous a promis dans quelques temps, hein, lorsqu'il aura un petit peu bien digéré et soufflé de sa victoire, il reviendra naturellement, donc... avec la ceinture dans nos studios. Voilà. Il arrive, notre ami El Hadji, bonsoir. El Hadji, un petit mot sur la boxe, parce qu'on a vécu samedi soir, on était en train de parler de Bakary Samaké, qui est devenu champion du monde. Hein.
Qui est devenu champion du monde, c'était une première expérience de voir un match de boxe en direct. Et franchement, on était au bord du ring, du coup, on n'a rien raté. Et franchement, c'était un très joli combat. Mm-hmm. Et c'était une très belle performance de Bakary
Samaké. C'est une très longue carrière qui s'ouvre pour lui. Il va falloir maintenant qu'il aille défendre son titre.
C'est ça, exactement, on espère, et on espère qu'il y aura d'autres victoires, et voilà, que ça se poursuivra en tout cas.
Très bien, donc on vous présentera une interview de Bakary la semaine prochaine, après donc sa victoire. Allez, on en vient à la page de la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, donc c'était la suite des matchs de Ligue des Champions. Donc on va revenir sur ces matchs de Ligue des Champions. Bayern de Munich, AC Milan, Chelsea, Benfica, c'était les qualifiés de la semaine dernière. Et puis pour les résultats de cette semaine, il n'y a pas eu d'énormes surprises. Hein. La logique des matchs allés a été respectée, comme Naples par exemple qui avait gagné devant Francfort 2-0 et qui a conforté en tout cas sa victoire au match retour à domicile 3-0 devant Francfort. Le Real Madrid qui avait écrasé donc Liverpool à Liverpool 5-2 et qui s'est imposé à Madrid 1-0. Leipzig, Manchester City 1-1, c'était peut-être le petit match à suspense, eh bien, il n'y en a pas eu pour match retour. 7-0 pour Manchester City au match retour avec 5 buts d'Haaland. Et puis Inter de Milan-Porto, ça c'était le match le plus serré. L'Inter s'était imposé 1-0 donc, à l'aller. Il y a eu 0-0 au match retour. Donc en plus du Bayern de Munich, de l'AC Milan, de Chelsea et de Benfica, sont qualifiés donc Naples, le Real Madrid, Manchester City et puis l'Inter de Milan, ce qui nous donnera en quart de finale Manchester City-Bayern de Munich, ce sera l'affiche de ces quarts de finale. Benfica-Inter de Milan, Real Madrid-Chelsea et AC Milan-Naples. Messieurs, vous en pensez quoi ?
Moi, j'aimerais revenir quand même sur le match de Manchester City.
Oui.
Alors, Haaland, quintuplé, ça a été un match exceptionnel. J'aimerais surtout revenir sur le début de match et les erreurs d'arbitrage. Ça m'a complètement sorti de la rencontre. Le premier pénalty qui est accordé à Haaland, il n'y a absolument pas main, je ne comprends pas. Il va voir la vidéo, il réussit à l'accorder. Quelques minutes après, il réussit à ne pas mettre de carton rouge à Ederson. Il fait une sortie calamiteuse à 30 mètres de son but. Il charge, je crois que c'est Forsberg, un des joueurs de Leipzig. J'ai trouvé ça scandaleux. Là, il n'y a pas eu de VAR. C'est hors-jeu qui a été sifflé, alors qu'on le voit très bien. La réalisation anglaise l'a montré qu'une fois le ralenti. On se demande bien pourquoi. Mais voilà, derrière Haaland, exceptionnel. C'est pas des buts dingues qu'il met, mais il est toujours bien placé. Une fois, c'est De Bruyne qui rate, il est là. Après, il est sur la ligne. Il est toujours bien placé. Il a encore mis un triplé là avec Manchester City contre Norwich. Donc ça a été très beau. Pour parler un petit peu de Naples, sans Kolo Muani, Francfort n'a pas fait le poids. Dans une ambiance exceptionnelle, j'ai vu les images en dehors du stade napolitain. C'était dingue, j'avais rarement vu une telle ambiance. Voilà, les Allemands qui sortent. Et puis le Real Madrid qui a logiquement passé ce cap. Même si Liverpool s'est procuré pas mal d'occasions, il y a eu beaucoup de déchets du côté madrilène, même si c'était un beau match de football.
Bon, messieurs, vous en pensez quoi ? D'accord avec Antoine ?
D'accord sur le côté Manchester City, il n'y avait pas pénalty. Moi, je suis... Voilà, il n'y avait pas pénalty.
Après, ça n'a pas changé la donne, 7-0.
Mais c'était au début, quand même.
D'accord, oui, mais c'est ce qu'on dit, ça n'a pas changé la donne, mais un match, c'est un match. Oui.
Ça les sort du match.
Ouais. On voyait bien Manchester City avant qu'ils ouvrent le score, et on dit bien, dans un match, le plus difficile, c'est d'ouvrir le score. Mm-hmm. Du coup, le score n'était toujours pas ouvert. c'est difficile. Pour l'instant, il y a toujours 0-0. L'équipe, elle jouait assez haut l'RB Leipzig. Ça faisait une vingtaine de minutes qu'elle tenait face à Manchester City, malgré que Manchester City avait la possession de balle. Mais dès qu'il y a un premier penalty comme ça, et coup sur coup, après, ils en prennent un deuxième. Ederson, il sort. Même à 2-0, Ederson, il sort. Carton rouge, Manchester City, ils sont à 10. Ils se prennent pas 7-0. Je pense pas qu'ils perdent 7-0 à 10 contre 11.
Ça aurait pas empêché quand même que Manchester
à 2-0. Oui, à 2-0, voilà. Mais bon, après, même ça, on peut pas savoir. Il y aurait pas le penalty, il y aurait pas truc. On ne peut pas savoir vraiment.
À bout.
Après, il y a le coach de Leipzig, Marco Rose, qui est très lucide en fin de match et qui dit qu'il faut pas parler d'arbitrage quand on a pris 7. On n'a pas le droit de parler d'arbitrage à la fin du match. Et moi, je pense que Marco Rose, il a résumé le match. Il dit qu'on en a pris 7 sur un match, on n'a pas le droit de parler d'arbitrage. Et il y a le capitaine de Leipzig qui dit la même chose, qui dit que quand on en a pris 7, on parle pas d'arbitrage. Le match, on perdu bien avant ça et on n'a pas été capable de faire ce qu'il fallait faire.
Oui. Oui, Karim, vous avez le temps de suivre les matchs, vous ?
Oui, quand même un petit peu.
De directeur général
quand même,
du club.
Bah, on est fan quand même de foot, donc on essaie de suivre voilà, les matchs. Donc, je rejoins un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est sûr que pour moi, le résultat change quand même un petit peu par rapport à... S'il n'y a pas le pénalty et puis qu'après derrière il y a carton rouge pour cette équipe,
Mais c'est toujours ça te joue toujours sur des détails.
Oui, mais après ça change quand même le début du match, et après derrière c'est sûr que ça ne fait pas 7-0. S'ils jouent à 10 contre 11, peut-être que Leipzig aurait pu revenir peut-être au score ou aurait pu un peu accrocher ce match. Après, sur la suite, après ces événements-là, Manchester était au-dessus, il n'y a rien à dire. Et voilà, ils ont gagné le match 7-0, c'était facile.
En tout cas, on a vu que sur les 4 matchs qui se sont déroulés cette semaine, 2 étaient déjà pratiquement faits avec les résultats du match aller, donc ça a été conforté. Et puis 2 autres étaient plus à suspense et puis indécis. Sur les quarts de finale, vous en pensez quoi ? Le choc, ça va être naturellement Manchester City-Bayern de Munich.
Très bon match.
Oui,
très bon match à venir. C'est une finale avant l'heure, comme on dit. Après, moi, sur l'équipe qui m'impressionne le plus, on va dire, sur cette Ligue des Champions, et aussi en championnat en Serie A, c'est Naples. Je les trouve très
fort.
Moi,
c'est mon favori. El Hadji, c'est Benfica, lui. Il dit que Benfica peut jouer, qui joue très bien, peut jouer les troubles faits. Moi, je pense que c'est plus Naples cette année. Surtout qu'il y a 3 clubs italiens en quart de finale. C'est le renouveau du football.
Puis du même côté.
C'était pas arrivé depuis 2006.
Tout à fait. Franchement, je les trouve très très forts, que ce soit défensivement, offensivement. Et puis après, pour parler de Benfica, je les ai vus jouer contre Paris, et c'est vrai qu'ils sont costauds aussi. Match aller-retour, ils ont tenu un partout au match aller, au match retour. Donc en tant que fan parisien, j'ai pu voir que Benfica était costaud aussi, et une belle équipe. Puis malgré qu'ils aient perdu Enzo Hernandez à Chelsea, ça n'a rien changé. C'est ça qui est bien dans les équipes portugaises. Ils arrivent très bien à vendre leurs joueurs, et malgré ça, leur équipe, elle ne bouge pas. Ils arrivent toujours à avoir une superbe équipe.
Ils nous ressortent des pépites juste derrière. Derrière, ils nous ressortent des pépites. Et franchement, moi, je vois le Benfica jouer. Je regarde des matchs du Benfica de temps en temps. C'est un plaisir de les voir jouer. C'est un régal.
Napoli,
même en Champions League.
Bien sûr.
Et même en Champions League contre FC Bruges, on l'a vu, match aller 2-0, match retour 5-1. Mais ils les ont, même dans le jeu, en fait, c'est dans le jeu, ils ont vraiment été largement supérieurs. Des buts construits du début à la fin, et ils les ont éclatés. Il y avait déjà, je sais même pas, c'était à la fin qu'il a pris le rouge, le FC Bruges. Mais moi, j'affirme, en tout cas, je pense que Benfica vont aller en Ligue des Champions, et Benfica peuvent prendre la Ligue des Champions. On va me prendre pour un fou. Une finale, ça joue sur une finale. Les deux clubs italiens, ils sont pas trop dedans. Pour moi, Milan, ils vont sortir Naples. Parce que ils ont déjà fait l'exploit pour moi en arrivant en quart de finale, comme ils sont jamais arrivés en quart de finale. Milan, ils ont une autre appréhension, c'est autre chose, surtout que le championnat, ça va très mal pour eux. Ils savent qu'ils peuvent que se rattraper en Ligue des Champions en essayant d'atteindre au moins le dernier carré. Et Milan, quand ça va tomber face à Benfica, moi je vois Benfica. Ouais. Parce que l'Inter, je les vois déjà dehors.
Mais non, mais après, il y a des équipes sur une saison. On avait Tottenham qui avait été en finale, ou l'Ajax une année en demi-finale. Il y a des équipes comme ça d'une saison. Valentin, toi, comment tu vois ces quarts de finale? Et puis, après les résultats de ces huitièmes, qui avaient déjà été bien entamés la semaine dernière.
On va dire que Eladj me convainc de plus en plus à penser que Benfica peut faire une surprise, parce qu'on avait déjà un petit peu parlé, mais je trouve que Naples, c'est vrai, fait une saison extraordinaire, et c'est déjà exceptionnel d'arriver à ce niveau-là. Après qu'on les ait connus, on se souvient des éliminations face au Real Madrid il y a quelques années de ça, et qu'après Naples, c'était un peu compliqué pour mettre la machine en marche.
D'une saison,
Et c'est ça, mais il y a quand même un duo qui est de magiciens. Il y a quand même un effectif solide, et c'est vrai que Milan, c'est Milan, en tout cas, beaucoup de mal en championnat de plus en plus. Et moi, je pense, j'ai Je dirais quand même que Naples peut passer. J'espère. En vrai, ce serait la petite histoire. Ce serait quand même, enfin, là, même une grosse histoire. Benfica, les arguments des Hadj chaque semaine me font réfléchir. Et c'est vrai que pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est, il reste à part, enfin, il y a City, le Bayern. C'est, il faut, il y en a un des deux qui va sortir. Après, la route, elle est un peu moins compliquée que les autres années. Donc, ouais, moi je dirais Benfica, Naples, pourquoi pas. Et puis bon, bah, le Bayern, je pense que City, ça joue bien, mais le Bayern arrive toujours à finaliser quand même.
On parle pas du tout du Real Madrid. Là. Ouais, il faut pas les oublier. Hein.
Ouais, bah, ouais, mais ça reste les favoris. Hein.
Ouais,
mais tu vois, on aime bien, mais à un moment donné, un petit Naples, Benfica, on est un peu de la surprise. Mais je pense que le Real, face à Chelsea, qui est bon, une équipe qui a beaucoup d'argent, beaucoup de joueurs, c'est pas encore un collectif. Et je pense que ça va être pas très, non plus très simple pour le Real, mais ça, quand même, ça sera quand même pas très compliqué. Quoi, je pense.
Surtout que le Real, ils se mettent en deux modes en fait. Ils ont le mode championnat où tu vois que c'est pas une vraie équipe, entre guillemets, et puis le mode Ligue des Champions. Mais ils sont trop forts. Donc,
et même quand ils jouent pas toujours très bien, ils perdent pas.
C'est ça.
C'est le signe des grandes équipes. Hein.
Tout à fait. Ouais.
Allez, Ligue Europa, on connaît les quarts de finale. Feyenoord Rome, Juventus Turin, Sporting du Portugal, Manchester United, Séville. Attention à Séville, qui est une équipe de Ligue Europa. Et puis Bayer, Leverkusen contre donc Réunion Saint-Gilloise. L'effet marquant, c'est l'élimination d'Arsenal, mais c'est éliminé par le Sporting donc du Portugal. Hein. Il y avait eu donc 2-2 au match aller, 1-1 après prolongation au match retour, 5-3 au tir au but pour le Sporting qui s'impose.
Voilà, bon, moi je voyais, dès que j'ai vu que les prolongations s'approchaient, je savais que le Sporting allait se qualifier. Hein. Souvent, c'est comme ça, les grandes équipes sortent quand ça arrive dans les prolongations, au tir au but en tout cas. Et voilà, Sporting, ils ont joué leur jeu, ils ont marqué un but remarquable, un très joli but de Pote. Je ne sais pas si ça s'appelle Pote, c'est ça. Voilà, le commentateur qui disait beaucoup mon pote, voilà, qui avait marqué un très joli but de à peu près 40-50 mètres, quoi. Et voilà, du coup, le Sporting, ils ont sorti. Arsenal, moi je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que d'un autre côté, ok, Arsenal, ils veulent jouer l'Europe, etc. Mais avant ça, ils veulent la Première Ligue. Ça fait, voilà, ils veulent la Première Ligue. Et moi je pense que ça va plus les aider à se concentrer sur la Première Ligue. En sachant que là, Manchester City joue Bayern de Munich. Du coup, ils ne pourront pas faire tourner face au Bayern. Et faudra vraiment jouer à fond. Et là, je pense qu'ils peuvent prendre les devants sérieusement pour espérer gagner la Première Ligue. Parce que 5 points de différence. 6 points, 5 points, ça reste quand même assez léger. Attention, voilà.
Manchester United et Juventus, c'est les deux favoris maintenant, messieurs ? Ah bon ? Karim ?
Vas-y. C'est les deux favoris, plus un peu plus United quand même que la Juventus. Hein,
oui.
Juventus,
attention quand même.
Ouais, les Italiens, je dis pas qu'ils vont rien faire. Hein. Je dis pas qu'ils vont rien faire. Je dis que Manchester est un peu plus favori que la Juventus, et ce qui est logique en vue des formes des deux équipes et même des effectifs des deux équipes. Après, c'est deux équipes dont va falloir se méfier. Mais moi, Séville, je suis désolé, c'est comme le Real en Ligue des Champions. Il y a des équipes comme ça. Même là, il y a Sampaoli qui va être licencié là aujourd'hui. Mais il y a des équipes comme ça, même quand elles ne sont pas bien en championnat, etc. Attention, c'est comme le Real en Ligue des Champions, c'est bien en Ligue Europa. Va falloir voir, ça va pas être un match facile pour
une équipe. Oui, parce que Séville, c'est une équipe de Ligue Europa.
Ah, c'est totalement leur compétition. Totalement.
Excusez-moi,
je viens faire les troubles faits.
Oui, t'as le droit aussi.
Quatre fois que Séville, ils ont atteint les quarts de finale, quatre fois, ils ont gagné la Ligue Europa. Les quatre fois où ils ont atteint les quarts de finale, ils l'ont gagné. Et là, ils sont encore en quart de finale.
Antoine ?
Il faut rappeler aussi que Manchester United vient de perdre Rashford. Il s'est blessé, là, il va pas être appelé avec l'Angleterre. Donc, s'il revient pas en forme, vu comment il est le moteur, il est le Mbappé de Manchester, ça va être compliqué parce que derrière Weghorst, bon, est-ce que ça va tenir contre un Séville faible? Je ne pense pas. Après, voilà, Manchester restera favori. Mais c'est vrai que Séville, ils font une saison cataclysmique en championnat. Mais voilà, comme le Real Madrid, ils peuvent nous surprendre en Europe. Et pourquoi pas, on ne parle pas du tout de la Roma de l'autre côté, qui peut contre Feyenoord, qui
devrait... Il y en a des clubs italiens cette année.
C'est clair. Il y en a 5 sans parler de la conférence.
C'est le gros renouveau du foot italien cette saison. Hein.
Donc on pourrait encore avoir un club italien en finale d'une Coupe d'Europe. Pourquoi pas un Roma-Juventus. J'ai du mal à voir la Juventus aussi haute que vous la voyez favorite.
Il faut qu'ils ouvrent leur saison, il faut qu'ils aillent chercher une Coupe d'Europe impérativement. Hein.
J'ai du mal à les voir vainqueurs quand même.
Excuse-moi, mais Philippe, ils sont à 5 points maintenant des places européennes.
Hein. Ah, c'est bien.
Ils ont battu l'Inter hier chez eux. Ils sont à 4 points. Et moi, je pense que déjà, les 15 points, ils vont les récupérer. Du coup, s'ils récupèrent les 15 points, ils finiront deuxième.
Ah bah voilà, donc là.
Donc l'affaire sera bien réglée, je pense. Mais la Juventus, moi, je les vois jouer. C'est solide avec Allegri. Il propose pas un jeu de fou, mais c'est solide. Ça gagne. gagnent des petits 1-0, des petits 1-0, mais ça fait beaucoup de points. Là, mmh. tu leur enlèves pas les 15 points, ils sont à quoi ? Ils seront à 15,
ils sont,
à 13
ils
points
deuxième,
de,
ouais.
ils seront deuxième ils sont à 13 points de Napoli, ouais. un deuxième assez solide du coup.
Allez, la Ligue Europa Conférence. Alors là, c'est le socle français qui reste. Hein. Vous l'avez dit, la semaine dernière, on était plutôt optimiste hein, pour Nice qui avait battu le shérif Tiraspol, donc 1-0 là-bas. Ils ont gagné 3-1 à Nice. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Ils joueront contre Bâle, alors que les autres matchs opposeront la Gantoise à West Ham, Lech Poznań à la Fiorentina, encore un club italien, et la Z Alkmaar contre Anderlecht. Là aussi, Abou, peut-être un parcours un petit peu similaire à ce qu'avaient fait les Marseillais l'année dernière en
oui,
finale
même
de
si
cette Coupe d'Europe des 5e
même, même, si, même si l'histoire elle est différente, oui, car oui. je vois que quand Nice est en Ligue Europa Conférence, c'est toute la France qui est en Ligue Europa Conférence. Ouais, à défaut de d'autres clubs, quand ils sont en Ligue Europa Conférence, oui, on n'est pas trop pour eux. Donc là, je vois que
c'est la suite logique.
Je vois que
vous n'êtes jamais pour le PSG.
Je vois que tous les clubs français doivent porter le maillot niçois. On le fera avec plaisir, il n'y a pas de souci. Nous serons derrière Nice, mais attention à West Ham. West Ham, si je ne me trompe pas, c'est l'équipe qui sort Lyon l'année dernière. Ça sort une équipe française, hein, West Ham. Attention à West Ham, très belle équipe. Ça sort Rennes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. West Ham qui joue très très bien au football. Il va falloir faire attention pour les Niçois, mais on leur souhaite d'aller au bout de cette compétition et ça fera une Coupe d'Europe pour nos Français.
Oui, il y a tellement peu, Antoine.
Avant de parler de la victoire, même essayer d'aller encore un peu plus loin pour l'indice UEFA français, ça ferait du bien. Mais voilà, Nice, ils ont un très bel effectif jeune. Je pense à Thuram qui vient d'être appelé par Didier Deschamps, à la recrue Terem Moffi, à l'expérience Dante, Todibo aussi qui va remplacer Fofana blessé. Mais voilà, c'est une très belle équipe qui propose un jeu consistant. J'ai regardé leur dernier match contre Nantes, c'était compliqué. Digard qui essaie de se réinventer par moment. Mais contre Bâle, je pense qu'il y a moyen d'aller battre ce club suisse. Ils n'ont pas eu le tirage le plus simple, pas le plus compliqué.
C'est pas le plus simple, c'est pas le plus compliqué.
Voilà, je pense
le plus compliqué, je suis d'accord avec Abou, ça aurait été probablement West Ham.
Même la Fiorentina, aller jouer en Italie, je pense pas que ça aurait été très simple. Ouais. Mais voilà, il y a une belle ambiance à Nice, donc ils vont pouvoir compter sur le public. Et pourquoi pas essayer de passer ce tour-là.
Toi, Valentin, qui connais bien Nice, hein, tu as passé un petit peu de moment, un petit moment. Bon, comment tu vois, il y a une possibilité pour cette équipe niçoise de ramener une Coupe d'Europe au
Il y a toujours des possibilités. Ça fait 61 ans que tu n'as pas atteint un quart de finale de Coupe européenne. Tu veux écrire ton histoire, c'est le moment. Les joueurs ont l'air remontés à bloc. Pour répondre juste à Bouc, West Ham avait éliminé Lyon l'année dernière en quart de finale. Donc, c'est vrai que ça a été un tirage compliqué parce que ça reste quand même de la première ligue. Ça reste quand même un championnat assez relevé. Là, je pense que face aux Suisses, je pense que quand même il y a un coup à jouer et Nice peut le faire. En plus, ils ont maintenant Todibo qui a été appelé en équipe de France. Cette équipe qui était quand même, on ne les voyait pas à ce niveau-là en début de saison, se révèle de plus en plus. C'est vrai que Digard fait un travail exceptionnel à Nice et comme je dis, 61 ans qu'ils n'ont pas vu une coupe européenne, enfin un quart de coupe européenne. Là, c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a le côté que toute la France est derrière parce que c'est aussi c'est pour écrire une page de l'histoire aussi.
C'est une façon de se consoler aussi.
C'est ça, c'est le seul club qui nous reste.
C'est
triste, mais c'est horrible de dire il nous reste que Nice en Ligue Conférence qui n'existait pas encore il y a 2 ans.
C'est la réalité pourtant. Allez, on en vient au championnat, 28e journée. Karim, on va y faire mal, le Paris Saint-Germain donc battu à domicile donc par Rennes 2-0. Décidément, Rennes c'est la bête noire du PSG. Hier, victoire aussi de Marseille à Reims 2-1. Les autres résultats, il y avait eu un nul entre Lyon et Nantes 1-1. La victoire de Lille à Toulouse 2-0. Lens qui bat Angers 3-0. Monaco qui va gagner Ajaccio 2-0. Et match nul entre Nice et Lorient 1-1. Et puis on n'oubliera pas aussi Strasbourg qui a battu dans un match important pour le maintien au CR 2-0. Donc Paris Saint-Germain en tête 66 points devant Marseille 2e 59, 3e Lens 57 et 4e Monaco 50. Et en bas de tableau, donc 15e Strasbourg 26, 16e Brest 24, 17 Auxerre 23, 18 3 et Ajaccio 21 et 20e Angers 10 points. Karim, Paris va quand même le faire quand même. Bon, je sais bien que ça va être un petit peu compliqué la fin de saison. Il reste 7 points d'avance avec cette défaite.
Oui, et les trois prochains matchs.
Le traumatisme n'est pas encore enlevé.
Après la trêve, il y a quand même trois gros matchs.
Il y a Lyon, je crois, qui vient au Parc.
Il y a Lyon.
Je crois qu'il y a un match.
Il y a aussi Lens, dans les trois prochains.
Et
je crois que c'est qu'on se déplace à Nice, entre les deux.
Attention, Donc. Vous allez au parc encore maintenant ?
Ça m'arrive et tout ça. Puis d'emmener mes enfants aussi. Bon, après, c'est plus l'ambiance de quand j'étais jeune. Maintenant, je suis un ancien.
La société change.
Il y a beaucoup de tourisme maintenant.
On a connu aussi au Parc des Princes.
Maintenant, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'anglais.
Et puis c'est formaté, ça rigole plus. Mais enfin bon.
Bon, ouais. Bah après, c'est sympa, ça ouais, reste oui. une bonne ambiance ouais, quand oui, même. Oui, c'est sympa sûr. D'emmener les enfants. Après, moi, quand j'étais jeune, que j'y allais, c'était pas la.
C'était
plus compliqué d'emmener des jeunes à l'époque.
Compliqué, durant
voilà,
moi.
C'est ça. Ouais, ouais. Donc là, maintenant, c'est bien pour les enfants, on peut les emmener, il y a une bonne ambiance quand même.
Mais est-ce que la défaite hier, ça peut remettre le titre en jeu? Il y a 7 points d'écart?
Bah, avant la défaite, j'aurais dit non. Et maintenant, ouais. avec la défaite, je me pose quand même
cette
la question.
Fois, ça laisse une petite marche quand même. Il ça reste une journée. Hein.
Oui, mais bon, comme j'ai dit, il y a les trois prochains matchs après la trêve. Ouais, il faut voir aussi si toute la défense elle est revenue de blessure. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de blessés en défense. Ensuite, après, derrière, Marseille, ils font des bons résultats. Bon, après, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs aussi, ce qui ne va pas être facile pour eux. Mm-hmm. Mais bon. Après, il y a Lens derrière aussi
voilà,
qui suit.
Ma petite idée, moi, je pense que Marseille vont finir champion.
Bah, non.
Oui, parce que vous voyez, avec le jeu qu'ils proposent, laissez-moi aller jusqu'au bout, avec le jeu qu'ils proposent, le jeu est tellement merveilleux à tous les points, aussi bien offensivement que défensivement. Je pense qu'on l'a tous vu hier avec Reims, que Marseille, ça tient la route et que Marseille, c'est prêt à enchaîner 10 victoires en Ligue 1 et ne pas perdre et ensuite gagner le championnat. Voilà, bon, bien évidemment, c'est absolument faux et c'est complètement faux. Le titre s'est joué déjà depuis un moment et même avant qu'on soit au Vélodrome, le titre était déjà joué. Le PSG vont finir champion comme d'habitude sans difficulté. Marseille vont lutter déjà pour la deuxième place, qu'ils fassent attention à la deuxième place au lieu d'essayer de regarder plus haut. Mais en tout cas, pour parler un peu plus sérieusement aussi, hier dans la défaite, franchement, ça n'allait pas. Et moi, franchement, souvent, je prends les patin de quelqu'un et je le défends, Kylian Mbappé, mais hier Kylian Mbappé a pas fait le taf. Hier, il a pas fait le job. C'est la première. Voilà, là, je le dis. Hier, il n'a pas fait le taf. Il a eu trois occasions franches en première mi-temps. Il en a mis aucune. Il devait en mettre au moins une. Et dès qu'il marque au moins 1-0 à la mi-temps, je pense que déjà il y a pas l'autre but derrière. Voilà. Bon après. C'est une défaite qui fait on a vu hein, c'était que des jeunes hein, il y avait que des jeunes, la moyenne d'âge de Rennes 23 ans et quelques, que des jeunes qui ont réussi à battre le PSG au Parc des Princes. C'est quand même une honte, moi je voilà, parce que c'est une honte,
c'est la bête noire Rennes quand même hein,
oui Rennes c'est la bête noire, mais bon là maintenant avec ce budget, avec ces joueurs là on n'a pas de bête noire en Ligue 1, qu'on soit clair, on n'a pas de bête noire en Ligue 1 avec ce club, avec ces joueurs on n'a pas de bête noire en Ligue 1. Rennes, ils viennent, on doit les tabasser. Voilà, bon après moi je suis content pour
Rennes, ils ont battu le PSG en Coupe de France en finale il y a quelques saisons.
Et même, est-ce que c'est pas l'équipe la plus faible qu'on a depuis l'ère Qatari? Je pense que oui, c'est l'équipe la plus faible qu'on a. Après, je suis désolé, avant, en fait, si tu veux, les équipes qui venaient au Parc ou même quand elles jouaient à l'extérieur, elles avaient peur de Paris.
Ouais, elles jouaient tous derrière,
ils faisaient un bus et tout ça. Là, maintenant, les équipes viennent au Parc, ils jouent. Ils ont plus peur. Ils viennent pour taper, alors qu'avant, c'était un miracle pour qu'ils viennent gagner. Ils se mettaient tous devant leur but, ils attendaient, ils espéraient un contre, gagner 1-0 etc. et tout ça.
Exactement. Et même à 2-0, Rennes continuait à attaquer pour mettre le 3-0.
Ils voulaient
partir encore à 3-4-0 des Princes. Donc
à partir de ce moment-là, toi, tu t'inquiètes pas?
Honnêtement, je pense pas que Marseille va enchaîner 10 victoires, ça m'étonnerait fortement. Et même si là, on va rentrer dans le dur, il va nous rester 3 gros matchs, ils vont faire un match nul, et même s'ils font 2 défaites avec, le reste, ils vont enchaîner, ils vont avoir le championnat. Franchement, ça m'étonnerait qu'ils l'ont pas. Moi, je dis pas que c'est mérité à 100%, etc. Parce qu'ils doivent vraiment rouler dessus. Là, normalement, ils doivent déjà être officiellement champions.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Officiellement, ils devraient déjà être champions. Bah oui, comme certaines années.
Quand on faisait peur.
Quand on faisait peur avec un patron comme Zlatan Ibrahimovic, quand il était là on faisait peur réellement.
J'aimerais juste reparler du match en soi, mais il y a énormément de choses qui n'allaient pas. Déjà la composition alignée, on est parti à 3 derrière avec Juan Bernat en défenseur central droit. On l'a presque pas vu de la saison, il nous le met à ce poste-là, mais c'était n'importe quoi.
Je sais pas, vous en vouliez 3 il y a quelques semaines.
On en voulait 3, mais pas avec Juan Bernat.
Avec Juliette aussi, vous en vouliez 3 défenseurs.
On en veut 3. Alors, ok, il y a pas Kimpembe est blessé, mais moi je veux Danilo, je veux malheureusement Ramos et Marquinhos quand il est. Alors là, il y avait énormément de blessés, mais quand tu as aussi peu de défenseurs centraux, et tu mets le système à 4 derrière. Messi, il m'a scandalisé sur ce match. Il a perdu un nombre de ballons, mais dès que je le regardais, soit il levait la tête, il se dépêchait de la lâcher, ou il envoyait un parpaing devant Mbappé, allez cours et vas-y débrouille-toi. Donc oui, Mbappé a raté, il a buté sur Mandanda qui a fait un gros match. Il a fait 3-4 parades héroïques, mais Messi, c'est le joueur que, bah, alors il est facile à observer parce qu'on voit presque que lui au milieu de terrain, mais on attend plus de Messi quoi. On est au Parc des Princes, on a besoin de caractère.
Si c'est passe des passes, tu changes peut-être d'avis. C'est-à-dire qu'il a mis.
Il perd un nombre de ballons.
Oui, il perd des ballons, mais bon, tu regardes, il te met la louche pour Mbappé qui tire dans Mandanda. Il te met la balle en profondeur aussi entre les défenseurs, où après Mandanda aussi fait la parade quand Mbappé tire fort sur lui. Tu changes d'avis, à mon avis, si c'est passe décisif, passe. Et en fait, si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que. Je suis d'accord sur. On voit pas forcément un grand Messi, mais quand tu regardes les stats qu'il a, malheureusement. Ouais,
on peut pas juste être content parce que Messi fait deux bonnes passes.
Non, on peut pas être content sur ça. Mais après, moi, en tant que fan du PSG, je trouve qu'ils font pas assez tous. Hein, de toute l'équipe en général, je vais pas dire plus un que l'autre ou quoi que ce soit. Comme je kiffais Verratti, et puis depuis qu'il a fait sa connerie contre le Bayern, voilà, je suis moins fan de Verratti maintenant qu'avant. Mais pour tous les joueurs, tu peux dire ça. C'est-à-dire que Mbappé, qui quand il est là, c'est le sauveur et tout, bah là, tout ce qu'il a loupé, il n'a rien sauvé du tout. Messi, voilà, c'est insuffisant, effectivement. La note qu'il a eue à l'équipe, je crois, c'est 3. Forcément.
Il n'a pas envie.
Mbappé, il a eu combien
J'ai pas vu la
note. Je ne sais plus sa note, mais il a eu une mauvaise note aussi. Donc,
Et le problème aussi,
c'est vrai. Franchement, moi, d'habitude, je tape beaucoup sur Messi, mais hier, voilà. Après, il n'a pas fait un match.
Non, mais il fait comme d'habitude. C'est-à-dire que, comme d'hab, il marche et ensuite, il distribue
deux ballons très potables à Kylian Mbappé qui devait finir au fond. Au moins un sur les deux, ça finit au fond, ça change le match. Hier, franchement, c'est Mbappé, il a merdé en grande partie devant, en tout cas, il a merdé. Et franchement, voilà, vous voyez bien à l'antenne, à chaque fois, je suis le premier à défendre Mbappé, etc., que ce soit en équipe de France, que ce soit avec le Paris Saint-Germain contre le Bayern, etc. Mais hier, franchement, il n'a pas fait le job du tout. Je pense qu'il avait déjà la tête en équipe de France. C'est pour ça que peut-être il n'a pas été.
Là, le meilleur joueur pour vous du PSG là, sur cette fin de saison, c'est qui? Danielo.
Nuno Mendes.
Ouais. Nuno Mendes ou Danielo. Ça, voilà. C'est pas normal Messi, Mbappé, Neymar, Verratti, Vitinha, on peut citer toute l'équipe, que ça soit Danielo Pereira, que tu comptais pas dessus sur lui en début de saison, et après Nuno Mendes, ton arrière-gauche ou ton ailier gauche, comme tu veux, et voilà, que ça soit eux les meilleurs joueurs de la saison. Il y a un truc qui va pas.
Ouais. Allez, on fait un petit break musical, puis ensuite on va continuer à commenter l'actu foot de cette semaine. Charles Aznavour, Mourir d'aimer, et ensuite on repart sur la Ligue 2, le National et tout le restant de l'actu foot.
Mon Paris Sport, c'est devenu mon Paris PSG.
Non,
faut nous dire.
Et c'est une radio parisienne.
On n'était pas au courant. Mon Paris Sport est devenu mon Paris PSG.
Allez, on y va, Charles Aznavour.
Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer. Puisque notre amour ne peut vivre. me brûler. Mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données. Le mien se donne et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir
parisienne, hein, mon Paris FM. Alors, à bout, certes, il y a le Paris Saint-Germain qui domine le foot français, mais c'est vrai, on est là toutes les semaines pour le décortiquer. Il y a aussi d'autres résultats, Marseille, Monaco, Lens, Lille, Brest, Strasbourg, Auxerre. Alors, t'as un mot à dire là-dessus ?
Non, mais ça me fait plaisir de voir, en tout cas, qu'on se calque sur les autres médias en parlant que du PSG. Oui, il y a eu effectivement d'autres matchs.
Il domine le foot français, c'est tout.
Mais même s'il domine le foot français, c'est pas pour ça qu'on doit ressembler à tous les médias qui ne parlent que de Paris. Surtout qu'hier,
on parle
d'une défaite du PSG. Bah, malheureusement, on devrait parler du 15e, comme on parle du 1er, du 2e, du 3e.
Donc, en bas de tableau, la lutte, comment ça se passe ?
Bah, en bas de tableau, la lutte, comment ça se passe ? Il y a Strasbourg et Montpellier là, qui s'en sortent très bien avec l'arrivée de Antonetti et de Michel Derzakarian. Ça se passe très bien pour eux. On va parler de la Ligue 2 après ?
Oui, bien sûr.
On va parler de la Ligue 2, tant
comme
mieux.
On le fait chaque semaine, à bout.
Oui, mais
c'est vrai que tu étais en vacances pendant 15 jours.
Oui, c'est vrai que j'ai vu que vous avez pris des mauvaises habitudes pendant 15 jours.
Pas du tout.
L'émission est devenue mon PSG Sport. Mais c'est pas grave, on a le droit. Je pensais qu'on était journaliste avant tout, mais je vois qu'on est supporters. Ça m'a fait plaisir d'assister. Ça m'a fait plaisir d'assister à cette discussion entre fans du PSG. C'est un plaisir que moi j'ai pris. C'est pas grave, vous avez le droit. Et maintenant, je fais la grève des autres.
On
parle du PSG.
Donc en tant que fan de Marseille, alors
parle-nous de Marseille. Alors, mais je suis pas un fan de Marseille, justement. J'ai même pas envie de parler. Alors, moi, j'ai même pas envie de parler plus de Marseille que des autres.
Tu parles
du coup, maintenant, on y va.
Parlons de la Ligue 2 pour le maintien.
Parlons de la Ligue 2, vu que c'est ça que vous voulez parler.
La Ligue 2, c'est moi qui dirige l'émission. On ira après.
Ok, et là, tu parles
du maintien. Non, non, mais vas-y.
Moi, j'aimerais bien parler de Lens, par contre.
Oui, alors vas-y, parle de Lens, justement.
Lens qui a fait un très bon match. Loïs Openda qui a essayé 6 buts sur ses deux derniers matchs après son quadruplé en quelques minutes, c'était exceptionnel. Il a encore mis un doublé contre Angers. Alors, jouer Angers à domicile, c'est pas le match le plus compliqué, mais voilà, encore un Lens consistant avec Fofana qui a ouvert la mène avec un beau but sur le côté droit qui a martyrisé le gardien. Ça fait du bien à Lens.
Voilà, la Ligue 2, comme chaque semaine à vous, 28e journée, le Paris FC qui a gagné son match en retard contre Amiens 3-0, donc mardi, eh bien le Paris FC a été battu cette fois-ci par Bastia 1-0, les autres résultats, le Havre Saint-Etienne 2-2, Bordeaux qui bat Nîmes 1-0, Sochaux qui bat Grenoble 1-0, et puis Metz qui va gagner à Quevilly-Roux en 2-1, au classement, le Havre en tête avec 57 points, devant Bordeaux 2e 50, 3e Sochaux 49, 4e Metz donc avec 48 points en tête à bout, tout est toujours aussi serré, sauf le Havre qui, naturellement, survole le championnat.
Ouais, le Havre qui va sûrement finir champion malgré ce match nul là contre Saint-Etienne. Saint-Etienne qui revient très bien. En plus, là, match à l'extérieur contre le Havre. C'est une très belle équipe. Très belle équipe Saint-Etienne. Moi, je les voyais descendre, à vrai dire, après les 10 premières journées.
Mais on l'a dit qu'ils allaient se maintenir. Hein, on l'avait dit.
Ils font même plus que se maintenir. Hein. Ils sont bien classés. 12e, ça revient à 5 points du PFC. Après, Bordeaux, Sochaux, Metz, ouais, c'est toujours serré. En plus, quand l'un fait match nul, les autres aussi font match nul. On a l'impression qu'il y a personne, il y a tout le monde qui a un peu peur de passer devant Bordeaux. Mais moi, je vois quand même Sochaux finir deuxième. Et je trouve que ce serait mérité pour Sochaux. Après, on assiste à une très belle Ligue 2. Je pense que le fait aussi que la Ligue 1 soit à ce niveau-là permet à la Ligue 2 d'être à un très bon niveau aussi.
Ouais.
Après, c'est triste pour Dijon et Nîmes qui étaient en Ligue 1 il y a quelques années.
Et le Paris FC, donc, on en parle chaque semaine, 10e du championnat avec Amiens, 37 points. Derrière, donc, on l'a dit, Saint-Etienne, Annecy, Valenciennes et Pau, 33 points. Les 16e, c'est Rodez, Laval, 31 points. Et les 18e, Dijon, Nîmes, Niort avec 26 points. Vous allez des fois à Charletti aussi voir le Paris FC, l'autre club parisien. Bon, ils sont au milieu de tableau. Je sais que Thierry Loret, ça va être compliqué pour qu'il reste en fin de saison.
Tout à fait.
Voilà, donc Paris FC qui va être maintien, qui va être, j'allais dire, sûrement en milieu de tableau. Ce serait bien de club parisien. Comme ça, il n'y aurait pas que le Paris, que
tout
le Paris Saint-Germain.
Ça serait bien. Comme dans toutes les capitales européennes où il y a plusieurs clubs qui jouent en première division, en Serie A, en première ligue ou peu importe. Il y a chaque fois, que ce soit en Espagne aussi, à Madrid, avec l'Atlético Madrid et le Real Madrid, ça serait bien qu'à Paris, on ait plusieurs clubs qui soient dans la meilleure division.
Mais c'est vrai qu'on a un championnat quand même de Ligue 2 très relevé quand même.
Avec les descentes de Bordeaux, oui, etc. Il y a vraiment beaucoup de clubs pro qui sont
et Dijon, incroyable quand même. Vous voyez, Dijon, équipe de Ligue 1 il y a encore 2-3 saisons et qui est au bord du national, là.
D'autres équipes, Évian-Thonon Gaillard il y a quelques années,
Boulogne Boulogne-sur-Mer.
Il y a toujours malheureusement on perd quelques équipes chaque saison qui ont du mal après leur descente à relever la tête et puis
Allez, 25e journée en national. Alors, je sais que vous connaissez bien aussi le Paris Atlético. C'est aussi le club d'Abou et de El Hadji. Donc,
c'est Paris, le club d'Abou.
Ouais, c'est ça. Justement, vous voyez, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Il va nous en parler du Paris Atlético qui a fait nul au Puy 1-1. Le Restart Bourg-en-Bresse, 1 partout aussi à Bourg-en-Bresse. Concarneau qui bat Saint-Brieuc 1-0. Martigues qui bat Avranches 3-0. Le Mans-Versailles, c'est ce soir à partir de 21h. Donc on a Martigues en tête avec 44 points, devant deuxième Concarneau, Versailles 42, quatrième Dunkerque 40, cinquième Restart 39, et puis en bas de tableau, 15e Le Puy 27, 16e Saint-Brieuc 23, 17e Paris Atlético 20 points et 18e Borgo 18 points. À bout, on se répète chaque semaine, le Paris Atlético malheureusement bien mal engagé.
Ouais, bien mal engagé, mais ça va. Tout va bien au club, vu qu'ils ont appelé le stade Boutroux le stade Pelé.
Oui,
donc ça règle tous les problèmes du club. Ouais. Ça, c'est du changement qui change. Ouais. Après, avec un match de retard quand même. Ils sont à combien?
Ils joueront le 28 mars contre le Restart. Voilà.
Ils sont à potentiellement 10 points du Mans, qui est 12e et qui est le premier non relégable. Restart qui n'est pas en très bonne forme en ce moment. Les hommes d'Abib Bey qui n'y arrivent pas trop. D'ailleurs, on voit Versailles 3e et Restart 5e, alors que c'est les deux équipes qu'on voyait monter en Ligue 2. Là, on voit que finalement, ça va être compliqué aussi pour eux. Il reste 10 journées en national pour inverser la tendance, pour Versailles et Restart. Mais ce sera un énorme échec pour les deux équipes de rester en national, vu les investissements mis et les propriétaires par qui ils ont été rachetés.
Ouais. Le Paris Atlético, vous connaissez bien, Karim.
Oui, après, moi je connais plus à l'ancienne, avec la fusion à l'époque avec le Stade Olympique de Paris, avec les Gobelins, qui maintenant est l'Atlético Paris 13. Ils ont très très mal commencé le championnat, c'était très difficile avec Jean-Guy Wallem.
Trois entraîneurs différents.
Tout à fait, après qu'on a changé. Déjà, le démarrage avait très très mal commencé. Avec Jean-Guy Wallem, ça n'avait pas changé. C'est très très difficile cette saison pour eux, en espérant qu'ils arriveront à se sauver. Mais bon, ça me paraît très très
bien
compliqué aussi.
On a suivi beaucoup de matchs.
Ils ont un match de retard, niveau comptable, niveau des points, ça va être difficile.
Bon, le championnat féminin, vous le suivez aussi. Bon, il n'y avait pas de journée ce week-end. Hein. Par contre, la nouvelle, c'est Hervé Renard qui va probablement devenir l'entraîneur de l'équipe de France féminine.
Ça, pour moi, c'est une super bonne nouvelle.
Ouais.
Hervé Renard, il a prouvé pas partout où il est passé, mais en tout cas dans les sélections africaines où il a été et tout ça, il a fait vraiment du très bon travail. Donc je pense qu'avec les féminines, ça peut le faire aussi.
Messieurs, vous en pensez quoi ?
Je l'avais annoncé, hein, ouais, l'avais dit que...
Il quitte l'Arabie Saoudite.
Il quitte l'Arabie Saoudite pour... oui, ça la re-ramène en Europe, quoi. Du coup, s'il fait une bonne Coupe du Monde avec l'équipe féminine, peut-être qu'il retrouvera une meilleure équipe derrière, que ça soit en sélection ou en club. Mais on voit bien, hein. Je comprends pas comment, en tout cas, avec tout ce qu'il a fait pour l'instant, Hervé Renard, je comprends pas qu'aucun bon club lui a donné encore sa chance ou quoi. Je ne comprends pas, réellement, parce que je le trouve vraiment très bon, Hervé Renard. C'est un coach qui me plaît vraiment dans sa physionomie, dans sa tactique, dans tout, quoi, voilà.
Avec les pays africains, il a fait des choses merveilleuses. Il a gagné quand même la CAN avec la Zambie. Il vient battre l'Argentine en Coupe du Monde. Il allait loin, ou je ne sais plus s'il l'a gagné avec la Côte d'Ivoire. En tout cas, il l'a gagné. Voilà, il l'a gagné deux fois. Il a fait de belles choses également avec le Maroc, donc tu as raison. Ce sera intéressant de le... Bah alors là, on va le voir un peu plus près. Il va entraîner nos joueuses françaises. Mais plus tard, pourquoi pas essayer de trouver un club européen. Alors, de là, aller chercher le gratin, peut-être pas encore. Mais de se rapprocher d'un club sympa, ça pourrait être intéressant.
Allez, avant... Ouais.
Non, juste attention, ouais. il a fait des super trucs avec les sélections. Mais après, en club, il a eu une expérience en club qui n'a pas été forcément...
C'était il y a un moment.
Oui, mais bon, ça n'avait pas fait... Enfin, c'était pas terrible, on va dire. Alors qu'en sélection, il fait vraiment des ravages. Donc, je pense que voilà.
Allez, pour finir sur ce chapitre foot, on va très brièvement parler des championnats étrangers. En Angleterre, après 28 journées, c'est Arsenal en tête, 69 points devant Manchester City, 61. En Espagne, c'était le Classico, hein, victoire de Barcelone devant le Real Madrid 2-1. Donc l'écart se creuse, hein, le Barça pour bien avec 68 points devant le Real 2e, 56. En Allemagne, 25e journée, c'est Dortmund qui a repris donc la tête du championnat avec 53 points devant le Bayern 2e, 52. Et en Italie, on en parlait tout à l'heure, Naples qui survole toujours le championnat, premier avec 71 points devant la Lazio de Rome 52 et 3e l'Inter de Milan 50. LAG.
Franchement, le Classico, hier, moi, c'était un beau match. C'était un beau match, voilà, c'était digne d'un Classico. Mais franchement, moi, le Real, ils m'ont déçu. Hier, en tout cas, Karim Benzema, il m'a déçu. Il a eu un zéro pointé de la part de l'AS Voilà, et du coup, non, franchement, et ça a été mérité parce que franchement, il a eu des occasions. D'habitude, il a des demi-occasions, il les transforme. Là, il a eu quelques petites occasions où il aurait pu faire mal. Franchement, c'était faible. Franchement, hier, offensivement, il n'y avait que Vinicius. Vinicius, il a fait un travail monstrueux. Toute là, il lui a tout fait. À Aroro, hier, il lui a tout fait. Aller-retour, il lui a vraiment tout fait.
Il lui a même fait mettre un but contre son camp.
Ah non, il lui a tout fait. Il lui a tout fait. C'est pour ça que quand je dis il lui a tout fait, il lui a vraiment tout fait. Ah là, voilà, Vinicius, hier, c'était un régal de le voir jouer. Mais Karim Benzema, autour, c'était trop faible. Offensivement, Valverde, il n'était pas trop dedans. Et Karim Benzema non plus. On ne comprend pas pourquoi il fait rentrer Ferland Mendy, depuis un moment, c'est un flop. Là, il arrive encore flop. Or que t'as Nacho, je sais pas pourquoi tu laisses pas Nacho. Franchement, je comprends pas. Après, Abou, peut-être, il donnera des meilleures analyses, mais bon.
Attendez, on a juste notre ami Stéphane, et après, on finira avec Abou. Stéphane, bonsoir. Donc, pour coup de cœur, coup de gueule de ce qu'on vient de développer durant ces premières 45 minutes, le temps d'une mi-temps de football.
Je vous ai écouté. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé plus tôt, mais c'est vrai que l'homme de la semaine, c'est Erling Haaland.
Oui.
Le Norvégien, il a quand même inscrit 8 buts en 2 matchs, hein, parce qu'on revient sur toute la semaine. Surtout un quintuplé en Ligue des Champions face à Leipzig, avant un triplé en coupe face à Burnley. Bon, en coupe Burnley en D2 anglaise, hein, Championship, mais qui est quand même leader de cette D2 anglaise. Le buteur de Manchester City est devenu le troisième joueur de l'histoire à inscrire en quintuplé en C1. Vous savez après qui ? Après Lionel Messi et... Eh ben non, pas Cristiano Ronaldo, mais le Brésilien Luis Adriano. Pour info, ça fait 41 buts en 37 matchs hors sélection pour le cyborg. Alors, Haaland sera-t-il ballon d'or cette année ? Il est encore un petit peu trop tôt, même beaucoup. Il est beaucoup trop tôt pour le dire. Surtout que si City venait à être champion et qu'il gagne la Ligue des Champions, je pense qu'on sera obligé quand même un peu de lui donner, je pense. Surtout que City va avoir du mal à être champion, justement, même si rien n'est encore fait pour Arsenal. Alors, le Real Madrid, vous venez d'en parler, lui a carrément dit adieu au titre, hein, faut dire ce qui est en Liga. Battu hier par le Barça dans le temps additionnel, hein, un but à la 92e minute, je crois, de Kessié. Les Madrilènes, ils ont désormais 12 points de retard sur les Catalans. On notera au passage que Haas, alors, elle a dit, il en a parlé, le quotidien sportif espagnol pourtant pro Real a mis la note de 0 sur 10 à Benzema. Alors la prochaine étape, eh ben ils envoient Benzema au PSG rejoindre Mbappé. La bonne nouvelle pour notre Ligue 1, c'est que Nice continue sa route en Ligue Europa Conférence, et on peut même espérer que les Aiglons aillent un petit peu plus loin que l'écart, puisqu'ils rencontreront les Suisses du FC Bâle au prochain tour. C'est une très bonne équipe, mais les Aiglons ont toutes leurs chances. De retour dans notre douce France, on rappellera, vous en avez parlé aussi. Et alors, je suis, d'un point de vue personnel, je serais très, très, je suis très étonné que Hervé Renard décide d'entraîner l'équipe de France féminine. Je ne sais pas si vous avez des infos en disant que c'est fait. De retour, en tout cas, on sait que là, c'est dans 4 mois, pile jour pour jour. Le 20 juillet, ça sera le début de la Coupe du Monde, donc en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et ben, nous, on n'a pas de sélectionneur. Et prochain match amical des Bleus, le 7 avril, avant un autre le 11 avril. Le 7 avril, c'est la Colombie. Le 11 avril, le Canada. Ça fait donc dans 17 jours. Et donc, pour l'instant, pas de sélectionneur. Je ne suis pas sûr que ça s'arrange beaucoup, beaucoup pour notre Fédé maintenant qu'on a mis Papy dehors. Alors, parlons un peu de la Ligue 1 pour terminer. Avec, pour commencer, cette défaite du PSG au Parc des Princes. Pour la première fois en Ligue 1, en tout cas, depuis le 3 avril 2021. Soit 35 matchs sans défaite. C'est pour dire que c'est quand même un événement qui marque. Alors, si le club devait se passer, effectivement, le club de la capitale devait se passer de nombreux joueurs, ça explique pas quand même la performance indigne du leader. Mais ne vous inquiétez surtout pas, que tous ceux qui sont pro-parisiens s'inquiètent pas. Christophe Galtier, lui, il sait pourquoi. Après avoir aligné Juan Bernat, donc petit latéral gauche, un petit par la taille, sur la droite d'une défense à 3. Alors là, sincèrement, il faudra m'expliquer. Moi, je n'ai toujours pas compris aujourd'hui comment c'est possible. Bah, Christophe Galtier, il a tenu des propos lunaires en conférence de presse. Je crois qu'ils sont passés un peu inaperçus. Je le cite. « Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement, à tout simplement lâcher le technicien parisien. » C'est quand même hallucinant d'entendre ça. Alors, on avait connu les propos de Leonardo en 2013, après une défaite à Reims, expliquant que le PSG, de Lavezzi et Ibrahimovic à l'époque, était formaté avant tout pour jouer les matchs européens. Mais alors là, franchement, on touche le fond. En parlant de toucher le fond, cette 28e journée nous confirme aussi la 10e place de l'OL et donc la démission prochaine de Jean-Michel Aulas. Bah oui. En septembre dernier, tout le monde se rappelle que le patron de l'OL, désormais salarié, grassement salarié, mais salarié de Lyon par John Textor, n'avait-il pas déclaré que si Lyon finissait 8e cette saison, il aurait alors, je le cite, démissionné bien avant. Alors, chiche, Jean-Mimi.
Ouais, merci Jean-Mi, merci Stéphane. Juste un petit mot, vous qui avez toujours des bonnes infos, hein, Stéphane. Donc vous confirmez que Hervé Renard, c'est pas sûr, parce que c'est ce qui a été repris par beaucoup de confrères plutôt sérieux.
Si c'est dit, je confirme pas. Je voyais que c'était bouillantissime. Moi, j'avoue que je suis très 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 surpris parce que il y a quand même très très peu de sélectionneurs qui faire la navette entre les féminines et les masculins, c'est très compliqué. Il y en a très peu qui le font. Alors peut-être qu'avec son standing, effectivement, ça lui permettra de le faire. Mais je suis un peu étonné. En plus de ça, alors il a dû peser le pour et le contre. C'est quelqu'un de très intelligent, effectivement. Donc il a dû peser le pour et le contre. Mais alors quitter l'Arabie Saoudite et venir s'occuper là, au-delà du fait que, bien sûr, financièrement, il perd beaucoup. Je suis un peu étonné. Et j'attendons de voir comment il arrivera à s'en sortir. Surtout s'il fait pas une énorme Coupe du Monde, quoi. S'il perd à perdre. Mais après, effectivement, par contre, ça serait quand même une très bonne nouvelle, quand même, effectivement, pour le foot féminin français, parce que je pense qu'il sera assez compétent dans ce domaine.
C'est presque fait, Stéphane. Il y a Jean-Michel Aulas là qui est dans Rotten sans flamme là en direct là depuis 30 minutes, et il a annoncé que c'était presque fait, c'est en très bonne voie et que ça devrait être le prochain sélectionnaire.
Ah, pour Renard là.
Ouais, pour Renard, apparemment. C'est
Jean-Michel Aulas. Tant mieux pour le foot français. Moi, ça, je suis un peu étonné. Hier, j'aurais vraiment pas parié ça. J'avais pas d'infos du tout là-dessus. Hein. J'avais pas du tout d'infos.
Okay.
Mais j'aurais pas du tout parié. C'est juste une sensation. J'aurais été très étonné. Mais très bien. Tant mieux en tout cas.
Stéphane, merci. Donc le coup de cœur, le coup de gueule, tout de suite sur quotidiendusport.fr.
Hein, ouais, il est en ligne sur le quotidien du sport pour ceux qui veulent le relire. Pas de soucis. Bonne soirée à tous les amis là.
À très bientôt. À Merci Ciao. Stéphane, rendez-vous donc la semaine prochaine. Alors Abou, on te redonne la parole concernant les championnats européens, parce qu'il fallait faire passer donc, notre ami Stéphane, tu voulais compléter
bah, le... Non, j'avais pas grand-chose à dire dessus, bon. Non, le Real qui a perdu le titre hier. Moi je vois Manchester City quand même finir devant Arsenal, malgré le fait qu'il joue la Ligue des Champions. Après en Espagne, en Allemagne, pardon, Dortmund qui va sûrement... Bon, moi je pense que Dortmund va le faire. Après il y a une confrontation directe là. Le prochain match c'est Bayern-Dortmund à l'Allianz Arena, donc il va falloir faire attention pour les jaunes, mais moi je vois Dortmund faire la chose, je vois le Barça le faire, il y a Naples cette année qui en profite, en fait dans tous les grands championnats tout le monde en profite, sauf en France où il y a le PSG qui est toujours en tête, et Marseille, Lens et Monaco qui sont
PSG,
derrière.
Faut pas trop parler du PSG.
Ah, mais je réitère ce que j'ai dit, hein. À part en Ligue 1, où les autres équipes, ils font pas
après,
le...
on va nous dire c'est Radio PSG.
Si je peux aller au bout de ce que j'ai dit quand même, même pas parler du PSG, mais aller au bout de quand même ce que j'ai commencé.
On le blague, on leur
blague. À part en Ligue 1, où on n'arrive pas à faire la course au PSG, je vois qu'en Allemagne, en Italie... Non mais je parle de cette saison. Je vois qu'en Italie, en Allemagne, il y aura du changement sûrement à la tête du championnat, et c'est une très bonne nouvelle pour le football.
Très bien, Antoine, et après on parle des victimes. Oui. Hein,
parce que... mais, moi, on a très peu parlé du match d'Arsenal. Je me suis
occupé à parler du PSG.
Entre autres.
Je remercie mon père de m'avoir donné la passion de regarder les Gunners jouer, ouais. Parce que là j'ai vu un match fabuleux. Bukayo Saka, qui est un joueur que j'adore, qui pour moi est l'avenir du football anglais et du football d'Arsenal. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match, et quand j'ai vu le 4-1 et la puissance dans le jeu des Gunners, je les vois champions. Alors il y a un match de retard contre City, je crois qu'il y a une dernière confrontation directe, mais je pense qu'ils vont le faire.
Très bien. Alors, on parle du Paris Saint-Germain, mais aussi on parle des Vikings, hein, Karim. Alors, ce club, il date de 2009.
Tout à fait.
Oui. Alors, pourquoi le foot, le basket et le futsal? Et pourquoi les Vikings?
Alors, tout d'abord, les Vikings, parce que le président donc, des Vikings, Gustav Tolgaard, qui a créé le club en 2009, est d'origine suédoise.
D'accord. Ouais, ça s'explique. Donc voilà.
Voilà. Donc tout d'abord, voilà pourquoi ça a commencé à s'appeler les Vikings. Donc Viking Club Paris. Donc on a commencé à la base. Donc en 2009, le club a créé une équipe de foot, de football, donc en loisir. Et ensuite, après, petit à petit, bah, on a commencé à mettre l'équipe en FFF. Bah, moi, après, j'étais le coach à la base de l'équipe senior en FFF. Donc on a réussi à faire deux montées en deux ans, et donc après on a eu les obligations de créer des jeunes.
Oui.
Donc voilà, donc on s'est lancé un peu dans ce truc-là comme ça, et donc on a monté le club petit à petit, et donc maintenant on arrive à plus de 800 adhérents quand même.
800 adhérents.
Tout à fait.
C'est-à-dire foot, basket et...
Oui, tout. Donc après le basket est arrivé que cette année, parce qu'en fait on a eu beaucoup
d'accord.
de demandes.
Et donc, c'est parce que c'est suite à des demandes. Quoi,
suite à des demandes, tout à fait. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont demandé de faire du basket. Donc là, normalement l'année prochaine, on va même mettre des équipes en compétition, parce que là on faisait du basket en loisir.
D'accord.
Mais l'année prochaine, on va commencer à mettre nos équipes en compétition. Donc après en foot à 11... voilà, c'est...
Vous avez combien d'équipes engagées en championnat en foot à 11 alors ?
Foot à 11, là pour l'instant on a juste nos U12, U14, ouais. U16 et ouais. les seniors.
D'accord.
En futsal, on a l'équipe féminine qui est dans la meilleure division féminine, donc en R1, et notre équipe 2 qui est en R2. En masculin, on est on a une équipe senior masculin qui est en première division, en D1. Et après voilà, enfin on a tout le reste c'est plus du loisir, enfin vraiment on fait des séances d'entraînement correctes.
Ça doit être compliqué quand même pour harmoniser tout ça, toutes les équipes en futsal, en foot et puis le basket, que ça arrive, ça doit être compliqué quand même, hein.
C'est pas mal compliqué, mais bon, après à la fois je suis très bien aidé par alors nous en fait on a la chance dans le club d'avoir des CDI. Donc en fait, voilà, c'est ça. Donc moi, on a 8 CDI en fait qui travaillent au club.
8 CDI,
tout
ouais,
à fait.
C'est énorme.
Donc on a des coachs qui sont diplômés du BPGEPS. Mm-hmm. On a aussi 8 personnes qui sont en alternance. Donc qui passent
bien,
leur BPGEPS actuellement, qui sont dans leur formation, donc qui sont en alternance chez nous. Et après, on a des jeunes aussi en service civique. Mmh. Donc on travaille avec les services civiques. Donc là, on est censé en accueillir une dizaine là, au 1er avril. Et en gros, on aura une vingtaine de services civiques d'ici septembre.
Et vos installations, elles sont où? Parce qu'on donc, a dit, hein,
bah ouais, nos installations club,
de... 3e, 4e. Ouais.
Bah en fait, voilà, effectivement, donc dans trois, dans, comme vous le savez, dans le centre de Paris, il n'y a pas de terrain de foot. Et donc, ils sont en périphérie de Paris. Voilà. Donc, nous, on est en fait sur plusieurs secteurs. Oui. On intervient donc dans le centre de Paris, donc le 1, 2, 3, 4 arrondissement. Ensuite, après, on a des infrastructures aussi dans le 11e. Pour ouais. le futsal, ouais, et, ouais. le 12e aussi, dans le 12e mmh. arrondissement, où là, on a le,
ouais.
voilà, le stade, ouais. le stade ouais. Garcherie, ouais. Qui est juste derrière le bois de Vincennes, mmh. où là, où on s'entraîne avec le foot à 11. Après, malheureusement, bon, voilà, on n'a pas les terrains pour jouer le
match
dimanche.
Officiel,
nos matchs officiels, on les fait à Créteil-Pompadour.
Créteil-Pompadour.
Tout
d'accord,
à fait.
Okay.
Voilà. Bon, après, c'est ouais, ouais. les infrastructures parisiennes, malheureusement.
Ah, oui,
il en faut pour tout le monde.
Et ça ne pose pas un problème, ça, pour ces licenciés?
Pour les licenciés, non. Plus ouais. pour nous, les, oui. pour les coachs, parce qu'en fait, aller à gauche, à droite, ouais. ça, c'est un peu compliqué. On aimerait bien, nous, avoir un seul gymnase et jouer dans ce gymnase-là, ou un seul terrain de foot, ou même si on pourrait être tout au même endroit, ça faciliterait bah, aussi bien pour l'achat des équipements que pour nos coachs, voilà, à être vraiment tous au même endroit, et ça serait mieux pour tout le monde. Après, on fait avec... Enfin, nous, on est un club jeune, donc forcément, il y a déjà des clubs qui étaient là avant nous. On n'est pas là pour leur piquer leur place, on est là pour se faire notre place, nous. Donc, on essaie de s'adapter avec le peu de créneaux qu'on nous donne chaque année. Mais on nous a donné quand même pas mal de créneaux. On est content d'avoir un bon partenariat avec la ville de Paris.
Et le basket, il va se jouer ou parce qu'il va falloir trouver des gymnases maintenant?
Alors, le basket, on avait déjà des gymnases. Et après, nous, on
fait. Enfin,
alors, on est à 9 Saint-Pierre dans Paris Centre.
Ouais.
Donc 9 Saint-Pierre,
c'est
deuxième entre Saint-Paul et Saint-Paul et Bastille.
Mm-hmm.
Après, on a aussi dans le 17e. Donc là, on a pris un gymnase privé. Donc c'est pas les mêmes tarifs que la mairie de Paris. Malheureusement, ça nous coûte beaucoup trop cher.
Oui, parce que il faut rappeler, hein, on loue les installations.
Tout
hein,
à fait.
Il faut quand même faut dire à nos auditeurs que les clubs sportifs parisiens louent leurs installations auprès de la ville de Paris. Hein.
Oui,
voilà.
Mais ça a des prix qui sont très intéressant, je pense, pour les clubs quand même.
Mm-hmm.
Après, on loue tout, en fait. Dès que vous faites un match, on demande un terrain, on va louer. On loue les terrains à l'année aussi pour nos entraînements. Nous, donc, comme je disais, on travaille avec le collège Honoré de Balzac dans le 17e arrondissement. Donc voilà, donc qui ont des gymnases privés. Et donc nous, on loue directement à ce lycée les créneaux. Donc voilà, donc on a de la chance d'avoir ces créneaux-là parce que ça nous permet aussi, des fois, quand la mairie de Paris doit loger des personnes dans des gymnases ou quoi que ce soit, donc ce qui fait que le gymnase ferme pendant un mois, par exemple, nous, on a ce gymnase-là qu'on sait qui est ouvert tout le temps et qui sera... Enfin, on a réservé les créneaux et on aura toujours ces créneaux-là.
Oui, oui. Alors, donc, licencié à la Fédération française de football et puis ils vont être licenciés aussi à la Fédération française de
basket.
Oui, de basket. Hein,
basketball,
ouais, ouais. Donc ça, c'est à part, hein. Quand on rentre dans votre club, ce n'est pas une licence unique.
Ah non, c'est bien différencié. Et puis même pareil pour la licence de futsal ou de foot à 11.
Ah oui, c'est pas la FFF ?
Alors c'est la FFF,
oui.
Mais c'est deux licences bien distinctes.
D'accord.
Après, avec une licence libre, on peut aller jouer en futsal. Par contre, avec une licence futsal, vous ne pouvez pas aller jouer en foot à 11.
C'est combien le prix de la licence si on vous rejoint ?
On est à 325 euros.
D'accord.
La saison, l'année.
D'accord. Pour le foot ?
Oui, pour le foot.
D'accord.
Et le basket.
Et le basket aussi.
Oui, ouais, tout à fait.
Infrastructure, vous avez des couleurs ?
Oui, alors les couleurs, c'est on joue tout en noir.
Ah, tout en noir?
Oui, tout à fait.
Les All Blacks, alors?
Ouais, limite. Donc après, non, on a les couleurs extérieures, on joue en rouge aussi. Voilà, donc c'est nos deux couleurs.
Alors, en préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez un slogan. Impossible n'est pas viking.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Donc, nous, en fait, c'est pas, impossible n'est pas viking, c'est-à-dire qu'on accueille vraiment tout le monde au viking, que vous savez jouer ou pas, voilà, vous pouvez venir. Nous, on va faire des séances d'entraînement adaptées. Le club a été créé déjà à la base pour ça, c'est-à-dire que le président a créé son club parce que voilà, il voulait jouer avec ses amis et qu'il n'était pas forcément pris dans des clubs à gauche, à droite. Donc, il a, à l'âge de 16 ans quand même, il a ouvert son club à l'âge de 16 ans en disant, voilà, j'ouvre mon club, je fais mon club, je fais mon équipe, voilà, tout le monde peut jouer. Et donc, c'est pour ça qu'on garde les sections loisirs. Pour nous, c'est très important parce qu'on a commencé vraiment avec le loisir et on veut vraiment garder, malgré que maintenant on fait de la compétition et qu'on est bien là-dedans, mais on veut vraiment garder les sections loisirs pour pouvoir laisser libre à tout le monde de pratiquer les sports qu'ils aiment, que ce soit le basket, le foot ou le
football. Et ça fait une tranche d'âge donc très
bah, de 6 hein à 60 ans.
Ouais. Et vous jouez au foot là, hein?
Alors moi,
parce que vous étiez blessé, vous n'aviez pas pu venir au mois de septembre, je me souviens.
Non, je jouais au foot à 11 ans. Ah oui. C'est foot à 11, j'ai fait du foot sale aussi.
Vous étiez cassé la jambe, hein, c'est ça?
Oui, je m'étais cassé la. Enfin, je m'étais fait une fracture du tibia. C'était compliqué, mais bon, après, voilà, ça va mieux. Et là, maintenant, on essaie de rejouer gentiment.
Alors, naturellement, vous êtes aussi très axé sur le sport féminin. C'est important. Hein.
Tout à fait. Oui. Donc, on est une des premières équipes de Paris à avoir créé nos sections féminines. Sur le futsal. Donc sur le futsal, comme j'ai dit, on est dans la meilleure division de futsal féminin, en régional 1. Donc on essaye de s'en sortir pas trop mal, parce que comme je disais, avant, avec les infrastructures qu'on a, malheureusement, des fois on a des créneaux qui ne sont pas forcément super. L'année dernière, par exemple, le créneau qu'on avait pour nos filles pour s'entraîner, c'était des créneaux de 22h à minuit. Donc, c'était très difficile pour nos féminines de s'entraîner dans ces conditions. Donc, il y a un moment donné. Là, maintenant, on a trouvé des meilleurs créneaux dans des gymnases privés où là, ils font vraiment du 19h30 à 21h. C'est plus adapté. On essaie de reconstruire sur le futsal féminin, parce que voilà, il y a des choses qui sont parties vu qu'on n'avait pas des bons créneaux, donc on est en train de reconstruire un peu tout ça.
Et puis vous faites des stages de formation pour ceux qui partent pas en vacances, ils peuvent venir jouer au foot. Ça,
tout
c'est
à
super.
Fait.
Ou au basket.
Tout à fait. Donc on travaille en partenariat avec la mairie de Paris, donc qui font les PSV pendant toutes les vacances scolaires. Donc c'est les Paris Sport Vacances. Donc c'est pour les jeunes qui ne partent pas en vacances. Ils peuvent s'inscrire en fait sur les sites de la mairie de Paris pour faire pour faire du sport gratuitement, bien évidemment. Et c'est des choses qui sont mises en place avec la mairie de Paris. Donc on les aide bénévolement, bien sûr, là-dessus.
Et des actions caritatives aussi, vous en faites, hein?
Oui, on fait pas mal. On travaille avec beaucoup d'associations. On travaille beaucoup avec beaucoup d'associations, des associations qui s'occupent des migrants, par exemple, où on leur donne des créneaux gratuits pour pouvoir jouer et penser un petit peu à autre chose. Donc des associations comme Basiliade ou autres. On est en train de, on mène vraiment beaucoup d'actions. Donc il y a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets, mais on les fait les uns après les autres, on ne peut pas être partout en même temps. Donc, mais vraiment, on a vraiment plein de choses à faire et le club grandit très très vite. Donc c'est très intéressant.
Ouais. Valentin et puis Antoine, ça vous inspire un commentaire?
Moi, je trouve ça...
Valentin, vas-y.
Je voulais pas couper. Bon.
Non.
Moi je trouve ça en fait génial que en fait on en moi
multisport, quoi.
C'est ça, c'est que moi j'ai fait beaucoup de multisport quand j'étais jeune et ça m'avait permis de toucher un peu à tout. Et c'est vrai que quand on se retrouve où on veut faire par exemple du foot ou du basket ou autre chose, on est dans des clubs, c'est à l'autre bout de la ville, c'est un peu séparé. Que là l'avantage c'est que on rentre dans cette organisation et puis on peut toucher à tout. Et moi étant fan de football mais surtout fan de basket, c'est vrai que ça me permettrait de faire un peu de jongler entre les deux et de toucher un peu à tout. Donc c'est vrai que c'est un avantage.
Oui.
C'est pour ça que c'est un avantage.
Et puis
vraiment...
après, il y en a même qui changent d'une année à l'autre. Cette année, je vais arrêter le futsal. Et puis, comme je disais, on fait du loisir, c'est-à-dire qu'on a des séances où, par exemple, on va faire, pour les seniors plus, parce que pour les enfants, ça va être des entraînements et tout ça. Mais pour les adultes, il y a des adultes, par exemple, qui ont en loisir, qui nous demandent pas forcément de faire des entraînements, mais qui veulent faire que des matchs, un petit peu comme au Five. Donc, ça, on organise aussi ces trucs-là avec eux. Il y a plein de choses comme ça. Et après, on peut faire du basket aussi pareil. On organise aussi des tournois en interne entre les équipes qui jouent le lundi et le jeudi. On fait le week-end des petits matchs entre eux. Voilà, ça peut être plein de petits trucs comme ça qui sont sympathiques. Donc on essaye d'être un club un peu familial aussi. On essaie de grandir petit à petit. Maintenant qu'on est dans la compétition, on cherche à monter bien évidemment aussi.
Oui,
mais bon, c'est pas la priorité pour le moment. Pour le moment, c'est de bien se structurer, d'avoir de bonnes bases pour pouvoir justement évoluer dans de meilleures conditions.
Antoine, à toi maintenant.
Excuse-moi, j'avais juste une petite question. Et du coup, quand tu joues au foot et après tu veux passer au basket, tu repayes une licence ou non?
Alors non, c'est au cours de la même année, non. Voilà. On va pas te faire. Par contre, si t'es dans l'année, oui, tu vas payer une autre licence.
Ok, et si tu fais les deux? Tu payes deux licences ?
Alors, on te fait un prix sur la deuxième licence. Ah, tu ne vas, okay. Okay. vas pas payer deux fois le
okay,
prix.
Non, pour savoir.
Un prix sur la deuxième. Il y a quelques adhérents qui ont fait. Il y a le prix de la licence qui est payé la première et la deuxième, non. Parce que les équipements, par exemple, on ne va pas les donner deux fois.
Ouais,
on sur les mêmes équipements au basket et au foot.
Et les mêmes couleurs. Hein, ça.
C'est ça, même
ça,
couleur et tout
ça.
Un petit sac à dos, maillot, short, chaussettes. Voilà. Donc, ouais, non, ça va, c'est en rouge pour les maillots d'entraînement.
D'accord.
C'est pas non. C'est intéressant, ces nouveaux clubs qui se diversifient avec plusieurs sports. On a reçu il y a deux semaines des gens qui s'occupaient du pentathlon.
Oui.
C'était intéressant, cette manière d'apprendre à tirer, à faire du cheval. Et là aussi, c'est vachement intéressant, comme l'a dit Valentin, de pouvoir au même endroit faire du basket, faire du foot. Je sais que plus petit, je voulais faire du basket et du foot. Et ben, c'est marrant parce que c'est pile le problème que ça posait, c'était trop loin. Je pouvais pas faire les deux parce qu'entre les cours et le basket, c'était pas possible. Donc c'est vraiment intéressant.
Les deux à côté en plus.
C'est
que t'avais deux clubs.
C'est deux clubs séparés, pas de la même ville.
Et puis en plus, c'est là où nous, et on a, comme je disais tout à l'heure, c'est un avantage et un inconvénient. Mmh. C'est-à-dire que le fait d'être dans plusieurs gymnases dans Paris, bah, si vous voulez, voilà, si vous habitez le 17e, vous pouvez faire du futsal et du basket dans le 17e.
Ouais,
si vous êtes dans le centre de Paris, vous pouvez faire du futsal ou du basket dans le centre de Paris. Et donc, c'est un avantage
ça
pour nous.
Une
parce que
par contre, de tout...
Par contre, ouais, logistiquement, oui, c'est...
Bah, énorme, parce qu'il faut que tous les clubs soient au courant, enfin, que toutes les organisations soient au courant
Après, le seul truc où on va être dans la compétition, c'est-à-dire que le foot à 11 se passe à Garcherie pour les entraînements. Donc là, toutes les équipes, par exemple, on a des joueurs de Paris-Centre ou de banlieue, ou peu importe d'où ils viennent, enfin même des joueurs du 12e, parce que l'équipe.
Oui, parce que vous ratissez large finalement.
Oh, tout à fait, ils connaissent le Viking. Et donc, ouais. Après,
il y a même
par contre.
Paris, ça va beaucoup plus loin.
Oui, ça va même en banlieue parisienne, tout à fait. Et donc, en fait, y a un avantage et des inconvénients. Donc, c'est logistiquement, on va dire, c'est inconvénient. Et après, l'avantage, c'est que vraiment, ça va toucher tout Paris. On ne va pas vraiment être focalisé sur un secteur. Voilà, surtout que nous, on est un petit club, donc on n'est pas encore. Très populaire ou très très reconnu comme d'autres grands clubs qui sont là depuis des années je vais pas faire leur pub je vais pas dire leur nom mais
on va rester sur les Vikings.
Me suis laissé entendre dire qu'il y avait des demandes pour avoir d'autres sports qui intègrent votre club.
Oui, on a des projets de faire du yoga aussi. Voilà, donc
ça peut aider pour le basket, pour le foot et pour le foot là.
Ça peut aider, voilà, tout à fait. Donc mais on a plusieurs projets. Après, c'est vrai qu'on veut pas trop non plus s'éparpiller à tout ouvrir d'un coup.
Parce qu'après, il faut gérer
et après,
tout
voilà,
ça,
c'est ça. Il faut trouver les coachs aussi pour s'en occuper. Voilà, c'est vraiment de l'organisation en interne qui, enfin même comme j'ai dit, malgré qu'on ait des salariés qui sont diplômés du PPGEPS, donc ce qui fait qu'ils touchent un peu à tous les sports et qui peuvent aider à ça. Après, on a vraiment des coachs qui sont spécialisés sur le football, d'autres qui sont spécialisés le futsal. Nous, on leur paye les formations aussi FFF pour passer leur diplôme. Donc voilà, on est vraiment, et comme je disais, sur les personnes qu'on accueille en service civique, on essaye, nous, de les orienter vers une formation BPGEPS. Donc après, on est en partenariat avec des écoles aussi pour qu'ils puissent faire après derrière. Bon, c'est pour ceux qui ont arrêté les études ou quoi que ce soit et qui ont envie de coacher des équipes ou de travailler dans des salles de sport ou peu importe. Et en fait, on les accompagne vraiment sur un BPGEPS avec les écoles et nous, on les prend en alternance chez nous. Alors, on ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. On est obligé de prendre ceux qui ont fait un service civique chez nous, on va dire, entre guillemets, pour les continuer, pour avoir la continuité avec eux. Et après, voilà, ça débouche sur un CDI chez nous
avec le
diplôme BPGEPS.
C'est bien. Alors, avant d'envoyer la deuxième pause musicale, il faut fédérer tout le monde, donc il faut faire des fêtes de fin d'année pour que tous ces gens puissent au moins se rencontrer et se
tout
voir. Hein, le basket, le foot, le futsal.
C'est ça, c'est ce qu'on essaie d'organiser
c'est
en fin de saison.
C'est drôle aussi des équipes.
Tout à fait. Nous déjà, tous les coachs se connaissent parce qu'on a des réunions tous les mercredis matins. Donc on se rejoint tous à la maison des associations dans le 3e arrondissement rue Perret. Donc on se rejoint tous là-bas et on discute justement de ce qui se passe dans les séances, ce qui va se passer le week-end, ce qui s'est passé le week-end précédent, les résultats des matchs, etc. Puis les matchs qui vont arriver, pour qui accompagne qui, question d'organisation. Et ensuite après, on essaie de faire chaque chose. enfin chaque année des petits trucs pour nos adhérents, c'est-à-dire que là cette année nos U14 sont partis faire un match amical contre Châteauroux, donc ils sont partis faire ramasseurs de balles pour l'équipe nationale de Châteauroux.
Chez Deniso là-bas,
c'est ça, tout à fait. Et donc ils ont fait ramasseurs de balles et le lendemain ils sont partis faire le match amical contre l'équipe de Châteauroux. Là on a le projet aussi en fin d'année d'accompagner nos U16 à Lille justement pour pouvoir faire un match amical contre une équipe de Lille. Donc voilà, c'est plein de petits projets qu'on essaie de mettre en place. Et après, bon, bien évidemment, on essaie de faire une fête de fin d'année pour réunir tous nos adhérents et que tout le monde puisse se connaître, que ça soit du 17e. Et c'est ça bien. qui est riche chez nous, c'est-à-dire qu'on va mélanger vraiment tout le monde. Vous pouvez habiter le centre de Paris ou habiter le 17e. Bah, voilà, tout le monde est réuni pour la même passion. La situation sociale chez nous, il y a vraiment tout le monde est mélangé. Vous venez pour jouer, vous venez vous amuser, c'est passer un bon moment. Voilà, c'est le principal.
C'est le but du sport. Allez, Simple Red, Holding Back the Years, et puis ensuite on aborde la dernière partie de cette émission.
Nothing had to change.
Voilà cette émission que vous pourrez naturellement la réécouter en podcast très rapidement sur les différents réseaux sociaux. Alors on parle du Paris Saint-Germain, mais on parle aussi du Paris Basket et du Paris Volley, puisqu'on va parler de la 24e journée du championnat de France de basket avec donc Valentin. C'est Valentin, il y a eu un beau derby pratiquement qui a vu la victoire vendredi soir du Paris Basket sur Nanterre 85-79. Dans le même temps pratiquement, eh bien, Boulogne-le-Valois était battu à Villeurbanne 86-69. Donc pour l'instant, eh bien, c'est Monaco qui est en tête avec 82,6 devant Boulogne-le-Valois 78,8. Le Paris Basket est 12e avec 41,7 et 17e Nanterre et Blois 33,3. Disons que ça va être une journée de championnat un petit peu morcelée, saucissonnée. Hein. Les autres matchs vont se dérouler à des dates beaucoup plus lointaines.
Oui, c'est la fin de saison.
C'est bizarre quand même.
C'est un peu bizarre, mais il n'y a plus grand chose à jouer, on ne va pas se mentir. Boulogne et l'Asvel, ça fait depuis le début de saison qu'ils se cherchent un peu, comme avec Monaco. Mais Monaco est presque intouchable dans ce championnat, dans cette Betclic Elite cette saison. Ouais. Et oui, c'est vrai que grosse surprise, enfin quand même, ça reste une surprise quand même quand Boulogne perd et on est tout le temps un petit peu normal avec Victor Wembanyama qui est dans le club. Tout, on regarde un peu plus comme les Américains. Paris, oui, Nanterre, depuis leur titre de champion, ça a du mal à performer, à revenir au haut niveau et là ils sont avant-dernier de la Betclic Elite. Donc c'était quand même un beau match, mais la victoire était logique et devait être du côté du Paris Basket parce qu'ils sont quand même à genre 6 places d'écart, 6 places d'écart environ. Il faut quand même bien finir la saison parce que comme je l'ai dit assez souvent dans cette émission, le Paris Basket, il y a beaucoup de jeunes qui vont partir en NBA, qui vont partir en Euroleague et la saison prochaine, la moitié de ton effectif n'est plus là. Donc si tu veux performer, prouver avec en plus leur nouvel entraîneur qui est là depuis le début de saison, c'est maintenant. Et puis les derniers matchs, quand tu n'as plus rien à jouer, c'est là où tu peux faire les derniers ajustements tactiques, voir un petit peu les jeunes joueurs que tu as en formation, essayer de les lancer. C'est ce qu'ils ont fait face à Nanterre avec 2-3 jeunes qu'on n'avait presque jamais vus, à part sur les stories Insta du club ou autres, qui ont enfin eu la chance de jouer et de performer et ça a donné une victoire du Paris Basket. Donc on espère que ce sera à la fin de saison rêvée comme ça.
Vous venez sur le basket aussi, vous qui êtes aussi un club de basket, hein, vous venez de temps à autre?
Sur le basket un petit peu moins, vu que après moi je suis vraiment plus axé sur le foot vu que j'étais coach de football et donc après on a créé la section basket par rapport aux demandes qu'on a eues cette année et tout ça, donc après je suis quand même les matchs NBA et tout ça parce que c'est
la grande ligue, c'est l'américaine,
c'est vraiment des shows et je trouve le jeu aussi beaucoup plus
ils disent souvent que le jeu en Europe, donc France, Euroleague, tout ça est plus physique, mais c'est vrai qu'il y a plus de, c'est plus facile de scorer en NBA, donc du coup c'est vrai. Et puis c'est le choix à l'américaine, les stars sont là-bas et puis tout le monde là, comme je le dis, les joueurs du Paris Basket, Juan Bergarin par exemple, l'année prochaine il sait qu'il est au Celtics de Boston et il n'attend qu'une chose, c'est de faire ses gammes un peu en Europe. Mais après c'est la NBA, c'est le rêve de puis il y a l'argent aussi, que le contrat n'est pas le même, très loin de là, donc c'est normal.
En tout cas on le dit chaque semaine, mais le Paris Basket c'est comme le Paris FC, c'est le mieux de tableau,
les clubs parisiens sont habitués à ça à part le Paris Saint-Germain
Et puis le Paris Atlético qui malheureusement va descendre, mais sinon pour le basket, pour le volet, on va le voir tout à l'heure, et pour le Paris FC, c'est le ventre mou.
C'est ça. Voilà. Et pour Atletico, c'est encore plus bas.
Alors le volet, justement, 25e journée, défaite du Plessis Robinson à domicile devant 7-3-1. Défaite aussi de Paris à Narbonne 3-1. Donc Tours est en tête avec 58 points. Dans le ventre mou, donc 9e Paris et Poitiers avec 28 points. Et 13e le Plessis Robinson, avant-dernier 23 points. 14e Cambrai 10 points.
C'est ça, Paris, quatrième défaite de suite. Hein. Il reste deux matchs, il va peut-être falloir se mouiller la nuque, relever la tête, je sais pas, faire une bonne performance, parce que là, ça fait... En plus, c'est pas des petites défaites. Hein. Au début de saison, on disait, oui, c'est une petite défaite, donc 3-2, il y a quand même du beau jeu, il y a quelque chose qui a été tenté. Là, c'est un 3-0, 3-1, encore un 3-0, et là, c'était encore 3-0, je crois. Une grosse défaite.
3-1.
Mais le point, en plus, ils l'ont obtenu sur un peu... C'était en fin de match, c'était un peu plus compliqué pour leur adversaire. Et vraiment, non, le Paris Volley, oui, c'est dans le ventre mou. Il faudrait faire attention que ça ne descende pas dans le bas du classement. Parce que logiquement, mathématiquement, ce n'est pas possible. Mais on ne sait jamais, il reste deux matchs. Tout, dans le sport, tout est possible et imaginable. Donc, il va falloir faire très attention à cette fin de saison.
Vous aimez le rugby, Karim?
Oui.
Bon, on a une belle équipe de France. Hein.
Tout à fait.
On se prépare pour la Coupe du Monde. Hein. Bon, alors, certes, on n'est plus champion du monde de foot, on n'est plus champion d'Europe de rugby, mais on a des belles équipes collectives quand même.
Philippe, toujours là pour rappeler des mauvais souvenirs, apparemment.
Ouais, non, mais voilà, donc parce que.
Non, mais là, ils ont bien joué ce week-end.
Ouais, alors justement, on va faire le bilan de ce tournoi destination. Hein. C'était la cinquième et dernière journée. Autant il y a eu 3 victoires à l'extérieur lors de la précédente journée. Là, il y a eu 3 victoires à domicile. Donc l'Écosse qui a battu l'Italie 26 à 14. L'équipe de France qui s'est très largement imposé malgré une entame un petit peu compliquée devant le Pays de Galles 41 à 28 et l'Irlande qui a battu aussi l'Angleterre 29 à 16 même si l'Irlande a été accrochée de mi-temps après ils ont su faire la différence exactement comme contre l'Écosse la semaine dernière. Donc l'Irlande qui obtient son 4e grand chelem de son histoire le week-end de la Sainte-Patrick hein, 48 2009 2018 2023
ouais, voilà. On va partir une semaine en alcool hein, ouais, c'est là-bas voilà. Pour eux c'est sûr hein.
Donc l'Irlande première avec 27 points, deuxième la France donc deuxième 20 points, troisième l'Écosse 15 points, quatrième l'Angleterre 10 points, cinquième le Pays de Galles 6 points et sixième l'Italie dernière avec 1 point, toujours et à nouveau cuillère de bois. L'équipe de France deuxième en 2020, deuxième en 2021, première avec le Grand Chelem en 2022, deuxième en 2023. On a vraiment retrouvé une équipe compétitive.
C'est ça, c'est la défaite face à l'Irlande qui fait mal parce que elle franchement, méritée, elle était méritée, mais si on retire ça,
la victoire irlandaise, elle est méritée.
Oui, c'est ça, mais le tournoi, si on regarde ça, il est sans faute. Et puis la victoire historique face aux Anglais, 53-10.
Ça, c'est historique. Hein.
Ça, c'est historique. Les Anglais, voir à ce niveau-là aussi, c'est étonnant. Et le Pays de Galles, je trouve qu'ils auraient mérité de finir dernier parce que l'Italie. Comme on l'avait dit avec Antoine, c'est une équipe jeune qui a su se montrer performant et enfin voilà une équipe avec des jeunes qui a su se montrer performant quand il fallait et puis voilà ils ont eu des difficultés mais les voir dernier c'est dur quoi. C'est dur donc après l'équipe de France deuxième mais bon on reste toujours c'est un peu dommage qu'on reste toujours un peu dans cette deuxième place qu'on s'est habitué et que quand on était premier c'était devenu exceptionnel mais bon c'est ça présage quand même
on a tellement
eu
des années de disette pendant 7 ans ça n'a pas marché hein. Oui, 2011 mais... 2018 2019
l'avantage c'est que ça présage quand même du bon pour le championnat enfin la Coupe du monde qui arrive en France chez nous donc on espère que l'Irlande nous fera pas encore le coup de passer devant nous donc,
ouais, bah, on peut les retrouver en quart de finale on verra alors on va quand même rappeler que l'équipe de France a battu 29-24 l'Italie, donc ça n'a pas été une entame facile, mais enfin l'équipe de France en est sortie. Ensuite, défaite donc en Irlande 32-19, victoire devant l'Écosse, ça n'a pas été non plus toujours facile, 32-21. Bon, le 5,
c'est toujours
la consécration,
été un peu compliqué,
53-10, match parfait, c'est la perfection contre l'Angleterre. Et puis donc, samedi, 41-28, finalement, ouais.
Ouais, mais il faut mieux faire peut-être pas des performances historiques à chaque fois, mais plus performer, par exemple, parce que c'est, comme tu le dis, c'est un tout petit peu un peu compliqué, même face au Pays de Galles, les 20 premières minutes, on se fait quand même rentrer dedans. Donc, oui. Ouais, mais t'es pas.
L'Irlande aussi, hein.
T'es pas au bout d'une mauvaise surprise. Ouais, mais t'es pas au bout d'une mauvaise surprise, ou genre, si l'Angleterre a des roules face à toi, le score, c'est pas le même, parce que le match est différent, il y a des faits de jeu, tout le monde en a très bien parlé tout à l'heure avec City Leipzig, ok, il y avait 2-0, mais on sait jamais, un pénalty qui est pas sifflé, une faute, quelque chose qui change, un carton rouge. On a bien vu par exemple si on prend l'exemple de Manchester United face à Fulham en FA Cup ce week-end il y a 1-0 pour Fulham, il y a un pénalty sifflé, Mitrovic qui vient faire une pousser l'arbitre, 2 rouges d'affilée pour Fulham, ils perdent 3-1 à l'arrivée. Donc c'est un défait de match, il faut être présent dans ces moments-là. L'équipe de France rentrait mal dans ces matchs, finissait bien, heureusement, mais il ne faut pas que ce soit comme ça pour une Coupe du Monde, parce que ça laisse pas droit à l'erreur.
Alors c'est vrai qu'on compare souvent Deschamps-Galtier, ils ont la même gestion de l'événement. Ouais, si, devant l'événement, je trouve. Moi je trouve après, que c'est un parallèle qui est juste. Ouais.
Deschamps, je peux en parler. Après.
Oui.
Il gère à peu près la même chose. Mais bon, c'est pas. Enfin, moi, je voulais plus parler sur l'équipe de France de rugby, sur les Bleuets, qui aussi ont fait le deuxième aussi.
Oui, c'est vrai.
Et donc, je pense que ça laisse un bel avenir aussi pour l'équipe de France de rugby.
Très bien. Alors, ça, c'était le feuilleton d'hiver. Il y a aussi le feuilleton d'été, mais dans le feuilleton d'hiver, il y a d'autres sports qui se terminent. On va rappeler qu'en ski alpin, Audermart, chez les hommes, donc, remporte le classement final de la Coupe du Monde de ski alpin. 2042 points. Il a battu le record du nombre de points. Schifrin, l'américaine, remporte donc la Coupe du Monde de ski féminine avec un record aussi. 88e victoire en Coupe du Monde. Et puis, une pensée pour Johan Claret et Tessa Worley, donc, qui mettent fin à leur carrière. En biathlon, c'est Joas Beu, donc, qui remporte le classement final finale de la Coupe du Monde Homme de biathlon, et Julia Simon, fallait le dire, donc, qui remporte la Coupe du Monde de biathlon féminine. C'est la première depuis Sandrine Bailly. Les filles ont été très, très à l'honneur dans ces compétitions de ski et de glace cet hiver. Et puis en ski de bosse, Pierrine Lafond remporte sa cinquième Coupe du Monde de ski de bosse. Ouais. Bravo aux filles hein, qui ont sauvé un petit peu l'honneur. Ça n'a pas été brillant chez les hommes quand même.
Mais, oui, mais c'est une bonne chose dans un sens bien. Où on met plus de lumière sur le sport féminin qui en manque cruellement. Oui. En plus, à un an des JO, on va encore plus en parler. Donc c'est
déjà ça. C'est en 26.
C'est ça, mais c'est, au moins, on va parler JO, on va dire sport. Ah oui, tu te souviens, biathlon, athlétisme. Voilà, on va commencer à un peu plus en parler. Et puis après, on dira, c'est en 2026. Et comme ouais, déjà qu'on voit, le foot féminin a du mal à avoir déjà la lumière qui, je pense, à mon avis, mériterait, parce que je vois pas pourquoi on devrait pas mettre autant de lumière sur un sport qui est en plein essor. Là c'est une bonne chose. Et puis comme tu le dis, voilà, les Bleuets au rugby qui finissent deuxième, les filles qui performent de plus en plus, on est vraiment dans, malgré les grosses défaites qu'on dit l'équipe de France football, il y a quand même de plus en plus en train de d'évoluer. Je trouve
en finale, on est deuxième
Ouais, mais les gens restent focus sur
le bilan est positif quand
c'est
même.
Ça c'est que les gens restent focus sur
les
gros sports.
Pas toujours, vous le savez, Karim, le sport on gagne pas toujours,
on perd plus qu'on gagne, ça c'est sûr, et c'est fait pour
ça.
Mais là, la France de plus en plus devient un des sports, enfin un des pays majeurs en termes de sport, en termes de victoire.
Et puis je trouve aussi, surtout sur le sport féminin, moi je le vois en tout cas au club, le Viking, sur nos séances de futsal, football et basket, sur les adultes, on a 40% de nos adhérents qui sont féminins.
C'est bien,
je trouve que voilà, ça évolue, et franchement ça évolue dans le bon sens.
Les mentalités changent, l'image aussi, et puis tout simplement on voit que c'est arrivé, il y a des résultats. Donc
c'est bien de parler de Pierrine Lafond justement et de Julia Simon, et de rendre honneur donc au sport féminin à travers leur performance. Donc ça c'était pour nos feuilletons d'hiver. Il y a un autre feuilleton d'été qui vient commencer. C'était il y a 15 jours le Grand Prix de donc la saison de Formule 1. C'était le deuxième Grand Prix de la saison, d'Arabie Saoudite. Verstappen n'a pas gagné, mais une deuxième, c'est Perez qui gagne malgré un doublé Red Bull.
Oui, mais ça reste, tu viens de te le dire, ça reste Red Bull.
C'est enchaînement, ça.
Verstappen, qui partait 15e parce que problème moteur dès la deuxième séance de qualification, donc malheureusement pour lui, ça arrive très peu souvent. C'était arrivé l'année dernière, le seul problème moteur qu'ils ont eu, c'était à Bahreïn, donc le premier Grand Prix de la saison, les deux voitures avaient dû abandonner. Et effectivement, c'était un grand prix, on s'attendait à quand même un Red Bull performant parce qu'ils ont fait une voiture, Lewis Hamilton l'a très bien dit, il a déclaré à l'équipe que c'était la voiture la plus rapide qu'il ait vue de sa carrière. Bon, Lewis Hamilton, je pense qu'il a la mémoire un peu courte parce qu'il est quand même cette fois champion du monde avec 2-3 véhicules, 2-3 bolides qui ont mis quand même plus de 1 ou 2 tours et une seconde à tous ses concurrents, il fut un temps. Mais Red Bull, voilà, Perez qui finit premier à 5 secondes devant son coéquipier, Verstappen deuxième, Alonso qui finit troisième, donc encore sur le podium. Alonso, c'est son centième podium à 41 ans quand même, donc le double champion du monde avec Renault est le seul, continue à performer, donc surtout à cet âge-là, c'est historique tout simplement. Et tout ce qui est Ferrari, les fans de Ferrari, c'est comme les fans du Paris Saint-Germain, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué depuis des années, mais là, ça devient très très compliqué. Sixième et septième, Leclerc qui finit septième, Carlos Sainz qui finit sixième alors qu'il partait quatrième. Leclerc partait douzième parce qu'il avait une pénalité à cause d'un changement de moteur et tout. Bref, c'est toutes les règles, on va pas aller dans les détails. Mais et étonnamment, il y a une équipe qui revient très très fort, c'est Mercedes, avec Hamilton et Russell qui finissent juste derrière tout ce groupe de Red Bull et de Aston Martin, Alonso, tout ça. Et nos Français de chez Alpine, un peu plus compliqué le week-end, mais ça, c'est, y a pas de c'est pas encore alarmant. On verra. Une chose est sûre, c'est que là, en deux Grands Prix, il y a une dynamique qui est lancée. C'est un peu comme le Paris Saint-Germain, comme les Liverpool, les Manchester City, il fut il y a quelques années en Première Ligue. C'est Red Bull, ça va être de la domination pure et dure. On le sent, on le voit. Quand tu mets 25 secondes à tes opposants à partir de la quatrième place et tu mets 5 secondes à ton coéquipier, alors que Verstappen, sur une voiture égale, il est meilleur que Perez. Je pense que Red Bull, bravo à Red Bull pour son titre. Apparemment, on ne sait pas. Ce sera Perez ou Verstappen le champion du monde. On verra, il faudra prendre des décisions.
En tout cas, il y aura un peu de suspense. Pour finir sur le chapitre sport mécanique, la victoire d'Ogier quand même. On parlait des Français au Rallye de Mexique.
Son septième de sa carrière, il est en tête. Ouais. Alors qu'il est beaucoup rigolent sur Twitter parce que c'est un pilote à temps partiel en quelque sorte de rallye, parce qu'il ne fait pas de toute sa saison. Et il mène le championnat, donc très très fort. C'est le septième de rallye du Mexique. Mexique de sa carrière. Et la MotoGP qui va reprendre week-end prochain. Donc voilà, il n'y aura pas de Formule 1. Ça sera dans la semaine encore après, en Australie.
Il y a tellement de choses que tu
surtout, surtout que le Grand Prix d'Australie, il est à 7h du matin. Donc là, il va falloir, être debout. Quoi.
Ouais. Merci en tout cas, Valentin. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Karim d'avoir été notre invité. Vous avez un site internet, il faut le dire tout de suite. Hein, donc on peut venir, si on veut venir s'inscrire l'année prochaine, maintenant, là, mi-mars, c'est pratiquement fini.
Non, on peut continue encore les inscriptions. Là, même, on fait des prix, justement, on ne paye pas 325 euros pour la fin de saison, bien évidemment. Voilà, ça, c'est pour une saison de septembre à juin. Enfin, même début juillet, parce que l'école finit début juillet. Donc, on a pendant les vacances, jusqu'aux vacances scolaires. Et donc là, on peut toujours s'inscrire. Il n'y a pas de souci. Nous, on accueille tout le monde. Comme j'ai dit, on fait du loisir, de la compétition. S'il y a des gens qui sont motivés, ils peuvent venir. Donc, sur vikingclub.paris. Donc, c'est www.vikingclub.paris.
Le site sera disponible après avec le podcast, de toute façon.
Oui, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
En tout cas, merci à vous de m'avoir invité.
C'est un plaisir.
Oh, mais vous cassez pas les jambes.
Bah, on va essayer.
Allez, merci à beaucoup. Tous et à tous. Double merci à Guy et puis à Jason pour la mainmise sur cette émission, celle de la semaine dernière. Et puis on finit avec c'est le printemps. Claude François vient à la maison. Il y a le printemps qui chante. Ça sera notre mot de fin. Et rendez-vous dimanche, la semaine prochaine, dimanche, pour le sport. Et puis lundi pour le commenter. Allez, bonne soirée à toutes et à tous.
Les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Du phare d'Alexandrie, fais naufrager. juvénile. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Allez, danse, oui, danse.
Paris FM.